Bonsoir et bienvenue dans Radio Cinéma Club, votre émission 100% 7ème art. Retrouvez le collectif The Bloggers Cinéma Club tous les mercredis soirs de 19 à 21h sur ZKM Radio, bien entendu.
Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à la seconde émission de Radio Cinéma Club, une émission spéciale Gérard May. Spéciale Gérard May parce que plusieurs des membres de Bloggers Cinéma Club étaient présents à ce festival. Certains d'entre eux sont là autour de la table avec moi, donc Valentin et puis Aurélien qui était là lors de la précédente émission. Bonsoir.
Bonsoir. Salut.
Et puis deux petits nouveaux dans l'émission, Margot et puis Thomas.
Salut
à vous deux. Voilà, donc ce soir essentiellement un compte-rendu du Festival international du film fantastique de Gérard May, et puis également les nouvelles sorties ciné, DVD, et puis un petit point sur l'actu région, l'actu nationale. Et puis voilà, donc on vous rappelle déjà que l'association... que l'association organise un événement le 14 février, donc on pourra vous rencontrer à ce moment-là, samedi 14 février, la Bloggers Valentine Night, avec projection de Dirty Dancing et de Top Gun. Voilà, donc on va commencer avec le compte-rendu du festival de Gérard May. Tout d'abord, j'aimerais bien avoir vos... On a le son qui est un petit peu fort. Le compte-rendu du festival, vos impressions. Certains d'entre vous y vont depuis très longtemps. Pour d'autres, c'était une des premières fois. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire ?
Moi, en résumé, c'était une excellente édition. Vraiment. Hein. Bon, j'en ai pas fait beaucoup. Je crois que c'est seulement la troisième. Mais voilà, clairement, c'était une édition quasi parfaite, tant sur la programmation, je crois avoir vu que deux mauvais films, donc ce qui est plutôt pas mal, tant sur l'organisation. Donc voilà, on en parlera sûrement sur le changement des réservations. Donc voilà, clairement, ouais, moi j'en suis sorti plus que ravi. Et toi, du coup, Margot ?
Bah écoute, moi c'était mon baptême de Gérard May, ma grande première. Et c'était.
Oui, alors on a David et Sylvain qui sont là, hein, IT Crowd, qui font des petits commentaires. Bon, okay. Voilà l'exclusivité de ça ce soir, encore une fois.
Ouais. Enfin, voilà, pour moi c'était vraiment, vraiment très, très agréable et vraiment une programmation haute en couleurs et extrêmement riche. Le moment que je retiens surtout, c'était samedi soir, le moment du lancement de la nuit décalée où les organisateurs ont eu le bon goût d'envoyer sans prévenir pour le lancement de cette nuit une vidéo de assez baroque, je dirais, de Maïté en train de décapiter et de décaloter des sangliers. Voilà.
Oui, d'accord. Ça donne envie, définitivement. Et puis Margot, toi, tu étais un peu intéressée aux événements qu'il y avait autour de la sélection. Donc je sais qu'il y a une zombie walk, il y a des expos, tout ça.
Ouais, tout à fait. Bah, y avait notamment une expo sur la Hammer qui était vraiment, vraiment intéressante.
Alors pour ceux qui ne savent pas, la Hammer, c'est...
un studio londonien qui a vraiment popularisé le fantastique à travers des adaptations de Dracula et de Frankenstein notamment, qu'a révélé Christopher Lee par ailleurs. Et donc il y avait toute une exposition essentiellement photo et d'affiches à l'espace Lac qui était vraiment, vraiment intéressante et sympa. Et donc aussi il y avait également la zombie walk, des ateliers maquillage et pas mal de choses assez sympas, ouais, autour de Gérard May, c'était vraiment chouette.
Ok, Thomas peut-être ?
Donc pour moi le festival était vraiment, le bilan est très positif. Pareil, ça fait 6 ou 7 fois que je le fais, ça n'a jamais été aussi bien organisé. Les réservations notamment, qui permet de ne plus attendre 1h30 avant d'arriver dans une salle et de plus rentrer à la maison avec la mort.
C'est vrai qu'il y a
ça fait plaisir.
Il y a une petite inquiétude quand ça a été annoncé, tout le monde a commencé un peu à flipper en disant oui mais il faut se connecter, il ne reste plus de place, et en fait ça a plutôt bien fonctionné.
Moi je trouve que ça a très bien fonctionné. Bon, c'était un peu un des des. Ouais, je trouve un moment, enfin bon, bref, depuis que je vais à Gérardmer, c'est vrai que le fait d'attendre comme ça dans le froid pendant quasiment une heure et de surtout de ne pas être sûr de pouvoir rentrer dans la salle, voilà, ça avait un côté un petit peu stressant. À la fois, les habitués regrettent peut-être un peu que ça ait disparu. Moi, j'en ai entendu certains qui disaient ouais, mais c'était ça l'esprit du festival, cette espèce de liberté d'aller choisir un film et de potentiellement pas pouvoir y rentrer. Et donc voilà, d'être obligé d'aller voir un autre film. Mais là, clairement, après, pour un côté pratique, voilà, en particulier pour nous qui avons été obligés d'aller voir beaucoup de films, voilà, clairement, le fait de pouvoir rentrer immédiatement dans la salle, c'est un sacré bonus. La seule contrainte, c'est qu'on n'a plus le temps de boire des bières dans la file d'attente. Voilà, moi j'ai dû en enfiler une en moins de 30 secondes, donc c'était extrêmement pénible. Mais voilà, mis à part ça, c'était le bonheur. Donc je remercie vraiment l'organisation d'avoir mis ça en place. Il y a un tout petit stress avant d'aller au festival, parce qu'il faut pouvoir s'organiser. En général, on n'y va pas seul. Donc voilà, il faut pouvoir prévoir les séances qu'on va faire, arriver à mettre tout le monde d'accord. Mais donc voilà, donc, du coup, de ce côté-là, effectivement, Thomas, c'était juste le bonheur, quoi.
Alors, un autre ancien de Gérardmer, c'est Valentin.
Ouais, bah moi je suis d'accord avec Aurélien. Enfin, l'organisation était.
Sur la bière, tu veux dire
Sur la bière,
ouais. Ouais, c'est ça. Hein.
Bah, du coup, on avait le temps de se poser au chaud entre deux films, quoi. Et pas la boire dans la file d'attente. Mais non, c'est vrai que le système de réservation, il faisait un peu flipper au début. Mais finalement, ça s'est très très bien passé. Et non, c'est bien, il faut que ça continue comme ça, parce que ça nous oblige à nous organiser. C'est vrai que je comprends à la limite ce que tu disais sur l'esprit du festival qui se perd un peu, parce que on aime bien aussi aller entre potes à l'arrache un peu comme ça. Mais en fait, ça nous force à nous organiser, c'est pas plus mal.
Carrément. Alors j'en profite juste pour expliquer un peu le principe, parce que tout le monde ne connaît pas forcément le festival de Gérardmer et la ville de Gérardmer. En fait, pendant le festival, il y a quatre lieux de projection, il y a quatre salles. Une très très grande, une un peu plus moyenne et deux très petites, qui sont pas forcément aux mêmes endroits. En sachant qu'en plus à Gérardmer, notamment cette année, il a beaucoup 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 neigé. Donc voilà, donc rien que le fait de se déplacer d'une salle à l'autre, il faut plutôt gérer son temps et gérer les déplacements à l'intérieur de la ville. C'est le côté pratique du festival, mais en tout cas ça fait aussi partie de cette diversité du festival, de passer d'une salle extrêmement confortable comme l'espace Lac, où se déroule la compétition officielle, jusqu'à la salle du Paradiso qui est avec des sièges en bois absolument affreux. Donc voilà.
Ok, eh ben, on va passer au film, hein, parce que c'est comme ça qui est au cœur du festival. Est-ce que vous pouvez me dire combien vous en avez vu chacun là,
je pense une dizaine.
Non, moi, je compte seulement dizaine, en compétition ou tout compris?
Non, tout.
Tout compris, j'en ai vu une vingtaine, je crois.
Ah ouais. Ça dure alors. Ouais,
sur une quarantaine, ouais.
On n'a pas rappelé.
Sans compter ceux que j'avais déjà vus avant. Enfin,
ah d'accord.
Ceux que j'ai vus juste à Gérardmer, je devais en avoir une vingtaine de séances, un truc comme ça.
On n'a pas rappelé les dates, c'était du mercredi 28 janvier, je crois.
Au dimanche 1er février,
donc ouais, c'est sûr. Ouais.
En sachant que le premier soir, il n'y a que la cérémonie d'ouverture, pardon, avec un film projeté. Et donc après, le gros du festival commence à partir du jeudi. On peut regarder des films de 9h du matin jusqu'à très tard le soir.
C'est vrai que c'est un festival qui est assez court quand même. Hein. Ouais. Et du coup là, c'est très dense pour les festivaliers
intense,
dans la journée, très
court,
intense,
mais intense.
Ouais, c'est très très intense,
que,
il faut faire des choix
justement. Le système de réservation qui n'existait pas avant permet justement de mieux gérer ça, quoi. Parce que nous, quand on sortait il y a encore l'année dernière ou les années d'avant d'une salle, et puis que 20 minutes après on devait se taper tout Gérardmer et puis attendre, se retrouver du coup au bout de la file pour aller voir un film, c'était un peu, ça faisait un peu short, quoi.
Passer de l'espace Lac à la MCL en courant sous la pluie,
voilà,
sans être sûr de rentrer, c'est fini.
Donc un système qui permet de voir plus de films en plus, plus sereinement.
Exactement,
quoi.
Et surtout voir des bons films, c'est ça.
Par contre, en contrepartie, j'ai trouvé que cette année, j'ai fait des séances qui n'étaient pas pleines, officielles à l'espace Lac, où il y avait le jury, où il y avait des places libres. Donc je sais pas si ça vient de des réservations.
Peut-être.
Ouais, mais franchement, je m'attendais à pire à ce niveau-là. Je pensais vraiment que les gens allaient réserver un maximum de films pour pas craindre de n'avoir plus de place et que il y aurait des salles quasiment vides. Ça n'a pas eu lieu du tout. Je trouve que c'était quand même vraiment 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 bien rempli, quoi.
Ouais, moi je suis plutôt de l'avis de Thomas, effectivement, comparé aux années précédentes, je trouve qu'il y avait moins de place.
Après,
en même temps, peut-être parce que justement
ça
a été mieux dispatché. Les gens étaient effectivement là où ils devaient être et pas avec des salles vides d'un côté et des salles pleines de l'autre. Après, moi, pour avoir discuté un peu avec des commerçants, surtout avec les tenanciers de bar, la neige cette année a un peu refroidi les festivaliers. C'était un peu compliqué d'atteindre Gérardmer sans pleine neige. Il a vraiment, vraiment beaucoup neigé.
Ouais, c'est vrai.
Donc voilà, apparemment, il y a eu une toute petite baisse. On n'a pas encore les chiffres, mais je pense qu'il y a eu une petite baisse de la fréquentation cette année.
D'accord.
Ce qui est dommage.
En parlant de tenanciers de bar, nous, on a rencontré des PAMA avec Margot.
Absolument,
absolument. Posté nos articles.
Oh là là.
La marmotte.
C'est assez pittoresque, hein, avec une marmotte.
Je tiens à faire un gros big up à la famille. qui possède le restaurant Le Petit Boulas. qu'on a bien mis squatté pendant une semaine.
On fait un bisou au Black Pearl quand même de la part d'Aurélien.
Exactement, le Black Pearl. Moi, je voulais en parler plus tard.
Le nightclub de Gérard.
C'est parmi mes.
C'est trop tôt dans l'émission. Là.
Highlights moment. Oui, voilà, c'est ça. Il est beaucoup trop tôt pour aller au Black Pearl là.
Bon, revenons à nos films. Oui, hein, voilà, c'est quand même une émission de cinéma avant tout. Donc, bah, écoutez, on commence par peut-être les coups de cœur et après les coups de gueule. Alors, les coups de cœur de cette édition 22e.
Ah, je sais pas. Vas-y, Margot, honneur.
Bah, écoute, moi, mon gros coup de cœur. Alors, sachant que j'ai raté It Follows, il faut le savoir quand même parce que ça aurait pu être différent si je l'avais vu. Mon gros coup de cœur en compétition, en tout cas, c'était Goodnight Mommy, sur lequel je rejoins notre mélomane jury jeune, ainsi que le jury sci-fi qui l'ont récompensé pendant la cérémonie de clôture, que j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment merveilleux, maîtrisé, virtuose, magnifique. Et le coup de gueule, pour moi, c'était en compétition toujours, c'était The Man in the Orange Jacket.
D'accord.
Voilà.
Et alors, est-ce que les autres ont vu ces deux films? Est-ce qu'on va pouvoir avoir un petit débat sur la question?
Débat pas forcément, en tout cas pas sur le premier, parce que moi j'ai adoré aussi. Goodnight Mommy, donc.
Il y a un débat possible vis-à-vis du twist, en fait.
Ah oui,
le fameux twist de Goodnight Mommy.
Alors, est-ce qu'on fait des spoilers ou pas dans cette émission?
Là,
alors, on n'est pas obligé,
Le film Bruce Willis est un fantôme. Sachez-le.
Non, parce que pour moi, clairement, on a eu le débat avec, enfin, un mini débat avec Valentin. Pour moi, il n'y a pas de twist.
Oui, voilà. Je suis tout à fait d'accord.
Dans le plan du repas, tout est expliqué. Quoi. Clairement, il faut vraiment avoir.
D'accord.
Faut vraiment être.
Moi, je l'ai pas vu venir.
Valentin
est un couillon, c'est magnifique.
Moi, j'ai pas mal de monde. Non, mais moi, j'étais con devant le film.
Ah bon?
Oui. Ah ouais, j'étais aussi scotché.
Voilà, j'ai été con. Non, mais moi vraiment, j'ai rien vu du tout. J'ai rien vu venir, vraiment.
Personnellement,
j'étais transporté par le truc et quand je suis arrivé, ça m'a. Putain, c'est pas vrai.
Donc, est-ce qu'on peut quand même parler du synopsis? Parce que là, du coup, c'est quand même
sûr,
très très fou.
Bah, ouais.
Qui s'en occupe?
Bah, c'est. Je vais le faire. Bah, okay. Vu que tout le monde a l'air ravi d'avoir envie de raconter. Ouais. Vous savez que quand je raconte un film, ça dure à peu près un quart d'heure.
On a un peu de temps, ça va, je suis sûr.
Donc, c'est deux enfants qui ont 9 ans, c'est Elias et Lucas.
Des jumeaux.
Lucas qui est souvent cherché dans le film.
Lucas!
Qui sont jumeaux, surtout.
Ils sont jumeaux,
ouais, c'est exactement. Important.
Et donc, ils vivent seuls avec leur mère dans une grande maison gigantesque au milieu de la forêt. Et donc, la mère vient d'avoir un accident. Elle est recouverte de bandages sur le visage.
Non, c'est...
Non, moi, j'ai pas vu ça comme
un
accident.
C'est annoncé comme ça.
Bah, t'as dormi, en fait.
Ils disent un accident dans le
ça
film.
Ça commence.
Ils disent, dans le twist. Ils disent le mot accident.
Ah, d'accord. Bah, c'est peut-être la mère qui leur a...
Non, ils disent le mot accident. Arrêtez de... Mais laissez-moi raconter le film.
Calmez-vous.
Bon, vas-y.
Bref, elle a des bandages sur le visage. Vous, après, vous interprétez ça comme vous voulez. Et donc, voilà. Et donc, à cause de ça, la mère change de tempérament et de comportement vis-à-vis des deux enfants. Et donc, les deux gamins sont persuadés que leur mère n'est pas leur mère. Et donc, ils vont à peu près tout faire pour découvrir la vérité, quoi, derrière ça.
D'accord. Et.
Bien résumé.
Et donc,
je suis pas trop d'accord, mais
alors, Margot, c'est des éléments de synopsis. Non, mais et donc là, on est en train de parler de la fin qui joue sur une espèce de révélation.
Oui, de révélation de non-révélation. Enfin, pour moi, bah, c'était une non-révélation, parce que moi, dès cette fameuse séquence qui vient après la séquence de pré-générique. J'ai compris le principe du film, et en fait, bah, du coup, après, justement, c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est de suivre ce principe-là, et comment les réalisateurs ont mis ça en place. Et à l'arrière, même si c'était un twist ou pas un twist, on s'en foutait un peu,
parce que
c'était pas du tout l'intérêt du film, à mon avis. Voilà, le film est, comme tu disais, Margot, il est superbement filmé. C'est le plus beau film pour moi en termes de réalisation, de cadrage, de la sélection, à mon humble avis. Bah,
alors, est-ce qu'on peut un peu parler justement de l'équipe du film? C'est un film autrichien, hein, si je ne me trompe pas.
Exactement, autrichien.
Il y a deux réalisateurs.
Ouais, alors
qui,
c'est.
Et qui n'ont pas fait grand-chose avant.
Véronica Franz
et Séverine Fiala.
Qui était là d'ailleurs pour lancer le film.
Qui était là pour lancer le film, et apparemment, c'est sa mère. Apparemment, Véronica Franz, si j'ai bien suivi, serait la maman de Séverine Fiala.
Mais non,
j'ai lu que c'était le neveu. Mais...
Ou neveu,
parce qu'elle
en vrai,
était là au début, elle avait pas l'air
vieille. Elle a pas l'air vieille.
Ah, si, justement.
Non, mais c'est ça.
Ah ouais.
Elle a elle-même subi une opération de chirurgie esthétique ou
un accident.
Un accident.
Alors,
j'ai des fausses informations.
Ils étaient là pour lancer le film et il me semble c'est lui qui a dit qu'il souhaitait pas parler de son film parce qu'il pensait que
l'intervention du réalisateur la plus intelligente que j'ai vue.
J'ai pas envie de mettre des mots sur
l'attitude adoptée
sur le film.
Ouais. Je crois que tu es possédé par un esprit
le
maléfique.
Le micro de Margot est possédé.
Est-ce que tu as joué au Ouija?
C'est bon.
On va y venir.
Toute seule dans un cimetière.
Et il faut savoir une chose, c'est que Veronica Franz, c'est la scénariste des films d'Ulrich Seidel, qui est un réalisateur autrichien que j'aime beaucoup, qui fait énormément de documentaires. Et on ressent un peu l'esprit, enfin, en tout cas, on ressent le sens du cadrage et du montage dans Goodnight Mommy, si on connaît un peu les films d'Ulrich Seidel. C'est ce qui m'a beaucoup plu aussi. Enfin, moi, je trouve que je suis d'accord avec toi, Aurélien, c'est le film parfait pour moi. Au niveau de la précision des plans, de la précision du montage, c'est
de l'esthétique. Ouais. Les scènes d'introduction, juste la scène d'introduction avec les deux gamins qui s'amusent dans le champ de maïs et surtout sur le marécage, séquence du marécage, elle est incroyable.
C'est là que c'est hallucinant que ce soit un genre de premier film, entre guillemets, enfin, qu'on n'ait jamais entendu parler de ces mecs-là, parce que c'est vraiment d'une maîtrise incroyable, quoi. Et autant dans le déployé de la narration que dans le montage, que dans le cadrage, c'est au poil de cul, j'ai envie de dire.
Donc récompense tout à fait légitime.
Tout à fait légitime. Ouais, j'aurais presque donné le grand prix, mais bon, c'était pas possible.
Moi non. Le twist m'a vraiment bouffé le film. Alors oui, j'en ai pris plein la figure niveau visuel, mais du coup, il y avait peut-être 20 minutes de trop, et puis sur la fin, je m'emmerdais, et puis j'attendais le twist final.
Bah puis c'est vrai qu'au final, j'étais assez déçue, comme je pensais comme toi, Aurélien. Moi, j'ai vu.
Moi, je pensais même pas qu'ils allaient en parler. Moi.
Voilà, c'est ça. Moi, je pensais que le parti pris allait être de vraiment finir sans évoquer.
Sans évoquer la fameuse révélation. Mais après, il y a des gens comme Valentin qui.
Ça aurait peut-être été mieux.
Il fallait les raccrocher au wagon à un moment donné.
C'est le problème de beaucoup de films qui sont un peu trop didactiques, quoi, qui prennent la main du spectateur et disent bon, si t'as toujours pas compris, je remets une couche. Il y a pas mal de films, je trouve, qui.
Oui, oui, non, mais dans ce cas-là, c'est décevant.
Là, pour moi, ils s'en cachent pas, quoi. Clairement, je veux dire, dans la scène du repas, on ne peut pas ne pas comprendre.
Ouais, ouais, mais comme dit après Valentin, on se concentre sur autre chose.
Voilà, c'est ça, tu te concentres sur autre chose et puis tu y penses pas, mais. Le fait qu'il le révèle à la fin, enfin, je veux dire, pour moi, ça change rien au message du film.
Ah non, ça change rien au film, quoi. Clairement, ça change rien.
En le révélant à la fin, il n'y a pas de. Voilà.
D'accord. Alors, je pense qu'on a donné envie aux auditeurs de voir le film. Alors,
en tout cas, vous avez l'impression, j'espère que vous allez bien deviner le twist avant tout le monde.
Sinon,
vous nous écrivez si jamais vous pensez qu'elle a eu un accident et pas une opération.
Non, c'est ça,
elle a eu un accident.
Non,
elle le dit.
Elle dit un accident, lui. Elle dit le mot accident.
Oui, mais non, elle parle d'accident, mais pas par rapport à elle.
Moi, je pense que c'est par rapport au gamin, quoi.
Bah, au moment où elle révèle.
Oh, il a tout spoilé.
Mais non, pas du tout. Mais non, pas du tout. Non, je veux dire qu'elle leur a dit. Non. Mais non, pas du tout.
Dissipé ce soir, hein.
Non, écoutez-moi, j'ai rien spoilé du tout. Qu'elle leur a dit qu'elle avait eu un accident pour expliquer le fait qu'elle revienne avec la gueule pleine de bandages, alors qu'elle a été juste faire une opération de chirurgie esthétique.
Je crois que c'est clairement évoqué aussi.
C'est une ancienne présentatrice télé. Elle s'est fait larguer par son mari. Apparemment, la vidéo qu'il regarde à un moment, je pense que c'est une vidéo qui a été faite pour un site de rencontre quand elle met les lentilles. Là. Donc, à mon avis, elle est en recherche d'un nouveau mec. Et tout simplement, elle a été se refaire faire la tronche. Sauf qu'elle elle peut pas le dire à ses enfants et que du coup, elle invente l'histoire de l'accident. Quoi.
Puis le personnage de la mère est de façon montré comme assez focalisé sur son apparence. C'est une présentatrice télé, etc. Je pense qu'effectivement, on pourrait plus tendre vers de la chirurgie. Mais
elle revient d'une chirurgie esthétique.
Et à un moment, après, on parle d'un accident comme si sa figure avait été abîmée par un accident. Donc, c'est.
Pour moi, l'accident, il est pas du tout évoqué vis-à-vis.
Pour moi, l'accident, c'est. Je sais pas. Bon, bref.
Quand elle parle d'accident, je me suis dit, elle a eu un accident et du coup, il y a eu la chirurgie parce qu'elle s'est faite.
Oui, c'est ce que je pensais aussi. Voilà,
donc, de toute façon, c'était un film qui est intelligent, qui joue là-dessus. Et donc, je disais que j'ai pas vérifié la date de sortie en France.
Ah bah, j'espère qu'il va sortir en France. Hein. Bah, là, avec ces deux prix, normalement, oui, les distributeurs sont censés s'y intéresser un peu.
Cela dit, nous, dans notre région, les gens auront l'opportunité de le voir au festival dont je parlerai tout à l'heure, le Luxembourg City Film Festival.
Il est
programmé. Ils ont
en
fait
compétition officielle.
Voilà. Donc ça sera une occasion
de
voir.
Il peut encore repartir. Ça serait bien qu'il reparte avec le Grand Prix cette fois-ci. Est-ce qu'il y a une follows avec dans la compétition?
Non.
Ah bah voilà. Donc il peut avoir le Grand Prix.
Et il est donc le festival a lieu du 26 février au 8 mars. Donc c'est à la fin du mois.
Carrément. Bah, chers amis messins, vous avez quelques 45 minutes à faire.
Voilà, c'est ça.
Ne ratez pas ça.
Voilà. Donc on va peut-être continuer avec un autre blogueur qui va nous donner son avis sur les films. Peut-être un coup de cœur et un coup de gueule.
Pas tous à la fois.
Thomas, vas-y, je t'en prie.
Donc moi, mon coup de cœur, sans surprise, c'est le Grand Prix, c'est It Follows, qui m'a scotché. C'était une grosse surprise, je ne m'étais absolument pas spoilé avant d'aller au festival. J'en avais entendu parler, de réputation uniquement. J'avais, lors d'une précédente soirée avec les blogueurs, j'avais juste entendu la bande-annonce. Ce qui, c'est un peu con jusque sur un son, mais qui augurait du pire, qui faisait un petit peu « j'attire l'adolescent ». Et au final, ça a été une grosse, grosse claque de mise en scène. J'ai retrouvé plein de cinémas de genre que j'adore. Des cinémas très 80, la musique, les cadres, le...
Ce bruit agréable.
Ça recommence.
C'est très années 80 aussi, ça, Simon. Te laisse pas dissiper, Thomas. Vas-y, continue.
Non, mais j'ai trouvé. Ben, en tout cas, même la façon dont il le fait.
Je crois qu'il y a un mec qui te suit, mais on le voit aussi. Hein. T'inquiète pas.
Je trouve qu'il arrive à mettre son film d'une manière assez intemporelle. Le fait qu'il n'utilise pas de téléphone portable, ils sont tous dans des vieilles bagnoles. Il y a tout un moment où je me suis demandé, zut, ils sont quand ?
Bah, ils habitent à Détroit, surtout. Je veux dire,
oui.
Voilà. Mais... Bah, pour moi, c'est un film qui part de la crise américaine, mais bon, je pense que c'est un espèce de sous-texte. Mais,
ouais. En tout cas, un cadre atemporel, finalement, pour parler de problématiques des jeunes.
Problématiques des jeunes.
Passage à l'âge adulte, quoi.
Il nous amène dans des endroits qu'on voit pas.
T'as
tout
pas
encore
l'occasion de le voir, Charlotte.
Au cinéma, de le voir.
D'accord.
Comme il filme Détroit, qui est une ville qui est en faillite, avec énormément d'endroits abandonnés, de grosses usines, de beaux bâtiments qui sont à l'abandon, il va dedans. On n'a pas forcément l'habitude de voir ça au cinéma, tout le temps. Et en plus, c'était mis en valeur parfaitement. C'était absolument génial.
D'accord. Et donc là, je vois Aurélien qui a un
petit peu
la moue.
Ah oui, moi, désolé. Ouais, moi, je suis un petit peu la moue. Parce que, bah, je pense que vous l'avez tous...
Moi je l'ai raté, moi.
Ah oui, toi tu l'as raté, c'est vrai que tu l'as
raté. Moi je l'ai vu, j'ai adoré.
T'as adoré très... Bah c'est cool, il y a des débats, c'est bien, ouais, c'est ça, on est là pour ça, c'est le cercle.
Bienvenue dans l'arène.
Donc voilà, alors moi je suis un tout petit peu moins.
Emballé quoi, en
moins emballé par ce film. Peut-être parce que j'en attendais beaucoup. C'est un peu con, hein, mais ça, à chaque fois je me fais avoir, hein, je suis un peu naïf. Hein. Mais souvent quand j'attends beaucoup d'un film, malheureusement je suis assez régulièrement déçu, en particulier parce que la bande-annonce était juste incroyable et que j'ai pas retrouvé cette espèce de sentiment comme ça, de mystère et d'angoisse dans le film. Concrètement, alors je sais pas comment l'expliquer en soi, si on prend juste le film comme ça d'analyse pure, c'est très très bien fait, voilà, c'est très bien réalisé, c'est très original, surtout. Effectivement, ça fait appel à un certain cinéma des années, fin des années 70, début 80. Mais moi, je me suis pas laissé emporter, quoi. J'ai jamais, à aucun moment, réussi à rentrer dans le film. En fait, c'est tout con, hein, mais concrètement, j'étais toujours dans la salle à Gérardmer. Mm-hmm. Et je me suis pas plongé à l'intérieur de cette histoire, dans ce qu'on appelle la diégèse. J'ai pas réussi à accrocher, quoi. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est peut-être une sorte de contexte, hein. Souvent, le cinéma, ça reste un art vivant, un art du spectacle. Voilà, donc des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas.
J'avais trop bu encore, c'est ça?
Non, même pas. En plus,
Juste après la bière que t'as sifflé en 30 secondes, du coup?
Non, je crois pas. Non, c'était pas cette séance-là. Donc, ouais, désolé d'être un petit peu froid. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que à lire les critiques,
c'est assez dithyrambique.
Les critiques sont dithyrambiques. Et je me demande même justement si c'est pas un peu le problème du film, c'est que c'est pas un film qui s'adresse à des connaisseurs, quoi. Concrètement, moi je pense que c'est un film pour les cinéphiles parce que ça leur rappelle certaines choses. Voilà, si t'as aimé le cinéma de John Carpenter, tu vas t'y retrouver. Si t'as aimé Gus Van Sant, tu vas t'y retrouver. Si t'as aimé, je sais pas, Wes Craven de ses débuts, tu vas t'y retrouver. Si t'aimes un peu le cinéma indé, moi je vous donne juste un exemple. On y a été, malheureusement, j'ai réussi à convaincre tout le monde de venir voir ce film en disant ouais, c'est le meilleur film de la sélection. Donc on était 12, personne n'a aimé, quoi. Mais vraiment, personne n'a aimé. Les gens ont été, ils en sont même venus à rigoler pendant le film, notamment dans la scène du mec à poil sur le toit. Il y a eu une espèce de fou rire à un moment, parce que voilà, ça tombe un peu comme un gros cheveu dans la soupe. Donc voilà, je sais pas comment dire de plus. Je sais pas si c'est un film qui frise le génie ou alors qui parfois justement frise le ridicule, parce que c'est un tout petit peu vide, quoi. Mais après c'est mon point de vue, hein. Après je comprends bien, c'est une façon très originale de traiter le teen movie. J'avais vu, je crois, Ouija, il me semble, dans la même journée, qui reprend tous les poncifs qu'on voit depuis 20 ans sur le cinéma. Là il y a exactement les mêmes thématiques, c'est-à-dire les adolescents, l'absence des parents. Il n'y a aucun parent dans le film, quoi. La gamine, elle se prend une balle dans la jambe, il n'y a pas de parents à l'hôpital, quoi. Enfin voilà, il y a une espèce d'invraisemblance comme ça dans le film. Effectivement, c'est traité de manière originale, mais moi c'est juste un ressenti en tant que spectateur. Voilà, je me suis pas identifié au personnage. J'ai pas réussi à m'identifier à l'héroïne du film et à ses amis, à sa bande de Scooby-Doo, là. Donc voilà, il m'a manqué un truc, il m'a manqué un peu d'émotion. Après, je comprends tout à fait Les qualités de film, de réalisation, voilà, c'est le long panoramique avec une grande focale comme ça, qui filme pendant, enfin, qui font, ouais, des très très longs panoramiques circulaires comme ça, qui rappellent beaucoup Gus Van Sant. On est obligé de penser à Elephant en voyant le film, voilà. Mm. Ces longs passages un peu silencieux comme ça dans les couleurs du lycée, mais voilà, moi il m'a manqué un truc, et pour moi c'est vraiment pas mon coup de cœur. Moi je leur aurais pas donné le Grand Prix si j'avais été à la place de...
Bon, j'ai pas vu toute la compétition, mais c'était mon Grand Prix des films que j'ai vu, en tout cas, clairement.
D'accord. Donc voilà, c'était juste pour apporter une... Je voulais provoquer le débat.
Je sais que Thomas a beaucoup aimé la musique aussi, on en écoutera des extraits tout à l'heure. Tu veux en parler un petit peu, tu connais l'artiste?
Non, j'ai du coup un peu écouté l'album cette semaine. Mm-hmm. D'habitude, j'écoute pas vraiment de musique de film, et là, bon, en travaillant, ça passait super bien. J'avais pas besoin des images pour apprécier ça, ce qui est assez rare pour moi pour la musique de film. En général, sans les images, je trouve que ça perd beaucoup de sens. Et là, ça m'a plutôt éclaté en travaillant. C'est plutôt sympa, ça rappelle, ben, encore une fois, Carpenter,
clairement. C'est même pas que ça rappelle, c'est plus qu'un hommage.
C'est de la musique électro, quoi.
C'est à la limite du... pas du plagiat, mais voilà, c'est vraiment référencé. Alors,
Très référencé.
T'as pas compris qu'ils adoraient Carpenter ou...
Si tous les films qui veulent ressembler à Carpenter étaient comme celui-là, je pense que je serais au cinéma vachement plus souvent.
Ah non, moi je comprends bien, mais après, clairement, voilà, par rapport à toute la production horrifique qu'il peut y avoir en ce moment, il est largement au-dessus du lot. Ça, il n'y a aucun souci. Hein. Mais voilà, moi je parle vraiment, c'est juste en expérience personnelle.
Ouais,
voilà,
tu t'étais aussi attendu à quelque chose.
Ce jour-là, ça n'a pas marché parce que je ne devais pas être dans les conditions. Ouais. Après, si j'avais découvert ce film-là tard le soir à la télé, j'aurais peut-être halluciné de voir un truc comme ça. Et donc voilà,
contrairement à toi, j'en attendais absolument rien. Comme dit, je m'attendais à être super déçu, et puis je me suis retrouvé devant le produit.
Il faut expliquer que Thomas a dit qu'il avait entendu la bande-annonce. Je crois que c'est parce que tu faisais
Je faisais le portier à la soirée là avec Clark, et j'ai juste entendu la bande-annonce.
Voilà, donc Thomas était dévoué, et du coup, on avait fait passer la bande-annonce avant les films de Larry Clark.
Ouais, c'est à ce moment-là que je l'ai vu.
C'est là que tu as vu la bande-annonce, et puis Thomas, malheureusement, était à la porte en train de vérifier les tickets. Donc,
ça me dérange pas, j'ai fait tout le festival de Gérardmer, je n'ai lu aucun synopsis, et je n'ai vu aucune bande-annonce. C'est la première fois que je le fais comme ça, où j'ai choisi mes films par rapport au réalisateur ou à une réputation, et ensuite j'ai comblé les trous. Et vraiment pas déçu. Ben, en fait, je conseille de faire le festival comme ça, c'est cool.
Bah ouais, carrément, ouais.
Ok, et voilà, est-ce que tout le monde a... Non, Aurélien, du
ouais,
coup...
Désolé, j'ai un peu monopolisé le débat, mais après, vous pouvez me contredire. Après, il n'y a pas de souci. Après, je vois les qualités du film sans
Et donc,
souci,
ton coup de gueule, Valentin, pour revenir...
Alors, non, mon coup de gueule, on va y revenir après.
Parce que
j'ai beaucoup à dire.
Il y a des choses
à dire. J'ai beaucoup
à dire.
Vas-y, Valentin.
Non, ce que je voulais dire, c'est que, pareil, mais les films que j'ai adorés, vraiment... Enfin, en tout cas, dans la compétition, parce que hors compétition, il y a beaucoup de trucs que j'ai adoré aussi. Mais dans la compétition, il y a Goodnight Mommy, on a parlé tout à l'heure, il y a It Follows. Alors, justement, je vais y revenir parce que je suis pas totalement d'accord avec toi, Aurélien.
Vas-y.
Alors, il faut juste préciser que It Follows est sorti en cinéma, dans les salles de cinéma la semaine dernière.
Non, il est sorti hier.
Bah, la semaine dernière.
Ah oui, pardon. Voilà. Oui, pardon. Exact.
Et voilà, donc les gens peuvent aller dès maintenant voir le film. Alors. Peut-être pas au Palace et au Caméo, parce que pour l'instant il est pas programmé. Mais
il est pas programmé.
Ah, quel dommage.
C'est étonnant.
Bah alors justement, moi, ce qui m'a donné envie de voir le film, c'est que j'ai vu la bande-annonce au Caméo, en fait. Donc à la fameuse soirée Larry Clark. Et me dire que déjà, voir une bande-annonce de film d'horreur au Caméo, qui est quand même un cinéma d'art essai pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même très intriguant.
Alors en fait, c'est moi qui avais choisi les bandes-annonces avec...
Ah d'accord, ok.
Voilà, donc, c'est pour ça
d'accord,
que...
je me disais bien, je l'avais pas revu depuis. Mais enfin bref, ouais, en tout cas, ça donnait envie. Après, c'est vrai que de regarder une bande-annonce qui dure quoi, une minute, et sur une minute il y a 30 secondes de incroyable, géant, génial, machin, que des critiques qui sont super sur le film, ça donne pas trop, enfin ça donne moyennement envie,
ça augure du mauvais.
Ouais. Ouais, non, ça fait un peu peur, c'est sûr, mais non, moi j'ai adoré. Il y a un film aussi, alors il y a The Voices qui a eu le prix du public, que j'avais beaucoup aimé.
J'aimerais bien qu'on parle de ça.
Oui, bah
c'est
ouais.
Avec Ryan Reynolds, hein, c'est ça,
avec Ryan Reynolds. Mm-hmm. Ouais. Et Gemma Arterton
qui... surtout
ouais, mm-hmm. Surtout Gemma Arterton. Et non, j'ai une super surprise dans la compétition, parce que j'avais vu la bande-annonce, pareil, de ce film qui m'avait pas du tout donné envie. Je me suis dit, ça va être chiant comme tout à mourir. C'était These Final Hours. Et alors, c'est un film qui, moi, franchement, m'a pris au trip. Et je veux dire, je suis ressorti de là, j'étais limite en train de pleurer, quoi, parce que ça te prend comme ça. Enfin, ça dure 1h20. C'est... Là, très intense, quoi.
J'ai le synopsis. 12 heures avant que la vie sur Terre ne soit accidentellement et définitivement éradiquée, James traverse une ville où le crime règne en maître pour se rendre à la fête ultime, celle de la fin du monde. Voilà, donc ça, c'est le pitch.
Alors, il faut savoir. Juste, oui. Valentin, avant que tu parles, parce que moi, j'ai pas vu le film.
Bah, moi non plus. Hein.
Non, je spoil rien de la compétition.
Pour moi, simplement, le pitch et surtout les bandes annonces ne donnaient absolument pas envie.
Non, ça donnait pas du tout envie. Non, vraiment, moi, je suis pareil. Je suis d'accord avec vous. Je suis allé le voir juste parce que j'étais au festival et que c'est en compétition, donc je suis allé le voir pour voir tous les films de la compète. Et en fait, je suis ressorti de là, mais vraiment, limite en train de pleurer. Enfin, j'avais les yeux tout plein. Voilà, et j'étais. Putain, mais c'était quoi? C'était génial. Et j'ai vraiment adoré ce truc. Alors, c'est un film australien. Et ce qui est assez intéressant, c'est que depuis 3-4 ans, quasiment à chaque fois, mais les films qui font partie, en tout cas moi, des meilleurs de la sélection de la compète, en tout cas, j'ai ramé, c'est des films australiens. Donc, l'année dernière, il y avait Babadook. Voilà. Il y avait The Loved Ones, il y a 3 ou 4 ans, je sais plus, qui avait eu le prix du public aussi d'ailleurs, qui était absolument génial.
C'était très drôle.
Enfin, très souvent, en fait, il y a un film australien dans la compète, un seul. Et...
Donc, a priori, il y a un bon nid là-bas.
Et à chaque fois, l'Australie, je pense que c'est.
Qui c'est qui grince?
Je crois que c'est Étienne qui
l'a envie. L'esprit d'Étienne.
Voilà, il a envie d'avoir l'attention
Etienne
sur lui, notre petit Étienne.
Je veux qu'on m'entende.
Mais t'as assez le micro ici, Étienne. tu pourras parler quand tu veux. Et non, ben voilà, en tout cas, This Final Hour, c'est à voir. Je sais pas du tout si ça sort, mais en tout cas, si ça sort un jour, même en DVD, il faut absolument voir parce que c'est.
Bah peut-être,
c'est
parce qu'ils ont quand même été récompensés par le prix de la meilleure musique originale.
Ouais.
Donc voilà, peut-être. Bon,
ça veut rien dire. Le Grand Prix de l'année dernière n'est encore pas sorti, je crois, même pas en DVD en France.
Hein. Non, ouais.
Miss Zombie.
Miss Zombie, c'est pas du
tout. Ah oui, mais Miss Zombie,
ouais, ouais, mais c'était nul à chier.
Difficile
donc,
à vendre.
Spécial, on est d'accord.
C'est pas bien grave que ça ne sorte.
C'était non seulement nul à chier, en plus.
Après, Babadook est sorti, ouais, il a eu 4 prix. Mais ouais, Miss Zombie, ouais,
c'est très dur à vendre.
C'était en noir et blanc, hyper contemplatif.
C'était très lent, c'était.
Mais un Grand Prix quand même. Quelque part, ça aurait pu. Faire un tremplin.
This Final Hour, voyons, on fait pas bien nos devoirs, on sait pas quand est-ce que ça sort, bah, y a peut-être pas rien
mais
d'annoncé.
Y a pas
prochainement,
de date de sortie,
ouais, voilà,
y en a pas de toute façon, donc on sait pas. Mais, voilà. Mais j'espère vraiment que ça va sortir, et si c'est pas en salle, au moins en DVD, parce que ça mérite vraiment d'être vu. Ouais. Vraiment beaucoup.
Recommandé
ouais.
par Valentin.
Voilà, croyez-moi.
Bon, on parle de The Voices ou pas là?
Oui,
alors, oui
s'il vous plaît.
Quand même.
Est-ce qu'on peut parler de The Voices?
Ah oui,
Margot,
bah
tu peux parler de The
Voices,
vas-y.
Oh, écoute... C'est marrant parce que quand je suis sortie du ciné, j'étais à la base un peu déçue parce que j'avoue que moi, Marjane Satrapi, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Et en fait, The Voices, c'est pour moi l'archétype du film jouissif, mais vraiment. C'est-à-dire, c'est gore, il y a de la comédie musicale, il y a quelque chose. Enfin, il y a des animaux qui parlent, voilà.
C'est culotté quand même.
Ouais, c'est vraiment culotté. Et Christophe Gans l'a très bien dit dans son discours à la cérémonie de clôture, c'est-à-dire que c'est un film qui maîtrise en même temps des niveaux de discours et des registres tellement différents avec tellement de brio. C'était quand même vraiment, vraiment une bonne surprise pour moi qui en attendais vraiment pas beaucoup. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, Persepolis, c'est quelque chose qui m'a vraiment exaspérée au plus haut point. Et là, The Voices, donc il y a des. Il y a vraiment des soucis pour moi. On sent qu'on a une dessinatrice de BD derrière la caméra et pas une réalisatrice qui sait pas filmer des champs contre champs, par exemple. Mais ça n'empêche qu'il y a quelque chose de vraiment très, très maîtrisé dans le registre et dans l'humour. Enfin, c'était très, très agréable.
Et elle s'est entourée de comédiens sympathiques. Hein. Je vois qu'il y a aussi Anna Kendrick qui sont dans un rôle secondaire. Moi, j'ai pas vu.
Pas forcément secondaire, non.
Non, c'est un des deux rôles principaux. Ouais,
D'accord, ok. Et...
Je sais pas si on peut spoiler ou pas, mais oui, non, c'est.
Non,
c'est
pas
non,
je pense pas qu'on puisse spoiler, ça sert à rien.
Franchement, pour moi, voir, parce que ça m'étonne pas vraiment pas du tout qu'il ait eu le prix du public.
Bah,
parce
que c'était tout le monde, ouais, c'était sûr.
C'était quelque chose, tu ressortais de ça, tu pouvais pas être ne pas être séduit, quoi. Ouais, ouais, totalement.
En fait, c'est ça qui est génial, c'est que même jusqu'au générique de fin, si tu veux, même jusqu'à la fin du générique de fin, t'es dans le film et t'es en plus une super bonne humeur qui se dégage de ça. Et forcément, tu peux que applaudir. Oui, non, le générique de fin, Ryan Reynolds qui danse, c'est magnifique, quoi.
Sur son transpalette.
Thomas,
tu l'as vu?
Non.
Moi,
j'ai fait que deux jours aussi, une journée et demie, je suis parti tôt le dimanche.
Il va sortir au mois de mars, non? Quelque chose comme
ouais,
ça?
Ouais, il est distribué par le Pacte, donc je pense que voilà, il n'y aura aucun souci.
Alors, je te le conseille très, très, très fortement.
Ouais.
Ce que j'en ai entendu.
Ouais. Mais là, en tout cas, ce qui était vraiment plaisant, c'est de le voir. Effectivement, il a reçu le prix du public et c'était juste plus que justifié. Il y a eu double série d'applaudissements à la fin du film.
C'était voilà, festif dans la salle.
C'était exactement
vraiment,
festif. Ouais. On a vu ça à l'espace-là, donc la fameuse grande salle. Là. Voilà, les gens étaient. mort de rire pendant quasiment une heure et demie. Voilà, bon, après, j'ai pas grand chose à rajouter à ce que t'as dit. C'est d'une maîtrise absolument folle dans les images, dans le cadrage, dans le jeu d'acteur, surtout. Voilà, Ryan Reynolds, moi je suis pas fan au possible, je le connaissais pas plus que ça, mais voilà, il est parfait dans son rôle de
Ryan Reynolds, je l'aime de plus en plus depuis Ted, en fait. Depuis qu'il se prend vraiment plus au sérieux, quoi. C'est dans Ted et dans Albert à l'Ouest, il fait juste une petite apparition dans les deux films, et il a un rôle très très con et très très drôle, en fait. Et depuis ça, moi je trouve cet acteur génial, quoi. Il se D'accord. prend vraiment pas au sérieux. Bientôt il va jouer dans Deadpool, un film de super-héros par Marvel.
Ah oui, exact. Oui,
et il y a d'accord. une petite vidéo sur YouTube, une vidéo en animation où il prête sa voix au personnage qui est très très drôle aussi. Moi alors, je trouve que c'est.
En parlant de prêter sa voix, je veux pas trop spoiler, hein, mais. Ou pas, oui. c'est lui qui fait la voix du
C'est lui qui fait la voix du chien.
Est-ce que c'est lui qui fait la voix du chat aussi
et
ou
C'est
pas
lui qui fait la voix du chat aussi, ouais.
Ouais. Ah ouais. Non, c'était juste une question.
Si, j'avais vérifié, c'est bien lui. Ouais. Donc, okay, il sait faire l'accent écossais en plus.
Donc, voilà, un des animaux qui parle, Ryan Reynolds, et puis aux commandes, une réalisatrice, Marjane.
Ouais, alors, voilà, je rejoins Margot, extrêmement surpris par sa capacité à faire un tel film. Voilà, c'est un film américain avec un gros casting et surtout une sacrée maîtrise.
Ouais. Sacrée oui, mais maîtrise du sens, cinéma. Tu sens des manques de. Vraiment. Pour moi, purement de l'ordre du vocabulaire cinématographique au niveau de voilà savoir mettre en scène un dialogue, ce genre de choses. Mais en même temps, elle maîtrise des choses que des réalisateurs ne maîtrisent pas. Mmh. Donc, c'est vraiment quelque chose à saluer
quelque
quand même.
Si le film n'est pas ultra maîtrisé de bout en bout, mais tant qu'il y a vraiment le dynamisme, en tout cas, il y a un dynamisme, charme, un truc que tu vois qu'on retrouve pas souvent.
Oui, c'est
le film, il glisse tout seul. Quoi. Ouais, et puis après, tant pis, s'il y a un ou deux plans qui sont... Enfin, en tout cas, il y a quelques scènes qui sont ratées, c'est un bien grand mot parce que le film n'est pas raté, mais où ça passe, ça tape un peu à côté, c'est pas grave parce qu'il y a toujours le dynamisme du truc qui fait que le film, si tu veux, continue à aller tout seul et puis ça passe très très bien, quoi.
Oui, et puis pour le coup, ce qui pouvait quelquefois manquer et ce qui est assez visible quand on voit autant de films à la suite que quand on est à Gérard May par exemple, c'est que là il y a vraiment un ton, il y a vraiment une patte, enfin il y a quelque chose d'extrêmement particulier qui se dégage, et c'est déjà ça, c'est vraiment rare, quoi.
Moi je pense qu'il peut devenir culte, quoi. Enfin, elle a mis en place tous les éléments qui peuvent rendre ce film culte, quoi. Dans l'imagerie qu'elle a inventé, cette espèce de monde imaginaire, hein, c'est le cas de le dire, hein, cette espèce de monde un peu édulcoré. J'ai pas d'autres références comme ça où tout est rose, etc., où les gens chantent un peu. Enfin voilà,
c'est un clip de Katy Perry.
Ça fonctionne.
Ouais, pourquoi pas.
Florian Chalas, on pense à toi. Ouais,
voilà. Je pense très très fort à toi.
Donc, voilà. En tout cas, ça fait plaisir de voir que les auteurs de bande dessinée qui se lancent dans le cinéma réussissent en ce moment, parce qu'à l'époque, moi, le seul souvenir que j'avais, c'était Enki Bilal, où c'était vraiment raté. Mais là, depuis peu, voilà.
Moi, je suis vraiment pas aimé, ça marche super bien.
Donc voilà, moi, voilà, c'est mon sentiment. Moi, j'ai vraiment pas aimé. Mais voilà, depuis peu, là, avec des gens comme Riyad Sattouf et Marjane Satrapi, moi, ça me réconcilie un peu avec
ça. C'est pas des gens du métier. Je pense qu'ils arrivent avec un œil nouveau et pas forcément faire des trucs académiques.
Puis en même temps, il y a déjà dans la bande dessinée quelque chose de savoir découper l'action et la rendre, faire une montée émotionnelle par le cadrage, ce genre de choses. Donc pour moi, c'est pas très étonnant que les auteurs de bande dessinée soient de bien meilleurs réalisateurs que les auteurs tout court, par exemple. Voilà.
D'accord, très bien. Donc là, It Follows et puis The Voices. Vous parliez un petit peu des standing ovations qui avaient pu avoir des applaudissements. C'est peut-être l'occasion de parler de l'ambiance du public du festival. Vous avez trouvé comment ? Parce que moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit depuis quelques années, on s'amuse pas autant.
Après, c'est vraiment un petit sentiment. Moi, j'ai trouvé qu'on s'amusait un petit peu moins que les années précédentes. C'est tout con, mais avant chaque lancement de film, il y a toujours le vieux générique du Festival de Gérard May. Je sais pas quel âge il a, ce générique, c'est parce qu'il est là depuis le début,
je pense. Ouais.
Donc voilà, où on voit le loup-garou, c'est ça ? C'est un loup-garou.
Il y a Frankenstein, la momie, le loup-garou.
Le loup-garou et la créature du marais noir. Voilà, en général, les gens font wouh quand il y a le loup-garou et blablabla quand il y a la créature du marais noir. Et cette année, ça a un peu moins marché. J'ai senti les gens un petit peu plus froid, mais bon, après c'est
séance à l'espace Lac, ça allait, mais j'ai fait comme n'ayant pas vraiment de passe, j'ai eu un passe week-end, j'étais pas accrédité, donc j'ai fait plus de séances au casino. En plus, c'est plus confortable, c'est vachement moins chaud là-bas. On sent que plus familial, c'est pas vraiment le mot, mais c'est moins les journalistes ou les fans purs et durs qui ont envie de s'éclater.
Ouais. Après, il y a aussi, ça peut avoir un côté positif, c'est-à-dire que les films sont bons. Si les films sont bons, les gens sont agrippés par le truc et ils vont pas s'exprimer de manière. Voilà, c'est en général, c'est quand on regarde des grosses daubes. Là, les gens se dissipent un peu, rigolent.
À part les 12 relous qui ont rigolé pendant It Follows, quoi, par exemple.
Oui, c'est vrai. il était à poil sur un toit, quoi.
Ouais. Mais est-ce que du coup.
Mais le plan était tellement beau.
Est-ce qu'on évoque un peu ce qu'il y a eu hors compétition?
Oui,
parlons d'autres films.
Et des bonnes bouses aussi. Enfin, franchement,
oui, non, parce que les coups de gueule, on les a pas fait, mais je pense qu'on a tous des
coups. J'ai un gros coup de gueule hors compétition, moi, à pousser.
Permets-toi.
Écoute, moi j'ai eu le malheur, la malchance, je ne sais pas comment qualifier ça, de voir Exist.
Ah oui, ouais.
Ah bah, il était génial.
Cool, je suis pas la seule à avoir souffert de ça, quoi, avoir enduré ça.
Raconte-nous. Ah oui.
Donc écoute, c'est.
On était dans le même rang, je crois, non?
On était assis
ouais,
à côté.
Ouais, c'était pour ça.
Mais si t'étais dans le rang des gens qui faisaient. C'est possible qu'on était dans le même rang. Écoute, donc c'est un film réalisé par l'un des deux co-réalisateurs de du projet Blair Witch à la base. Donc je n'ai plus son nom.
Eduardo Sanchez.
Voilà, ça
sentait mauvais.
Bah, pour moi non, tu vois. Pour moi non, à la base non.
Ah si, le Bigfoot ça pue quoi.
Et voilà, le problème c'est que
c'est la créature la moins effrayante du monde quoi.
Bah, voilà. Sauf apparemment pour les Américains. Enfin je sais pas, pourquoi ils en ont peur vraiment des Sasquatch.
Mais attends.
Mais les Américains ils ont plein de problèmes.
C'est un film en fin de footage. Sur le Bigfoot, le monstre du Bigfoot, qui est un espèce de gros singe, voilà. Et en ce qui me concerne, c'est vraiment l'un des, si ce n'est le pire film de found footage que j'ai vu, c'est-à-dire un film de found footage qui évite, mais vraiment très consciencieusement, tous les enjeux et tout ce que le found footage peut avoir d'intéressant.
Il y a mille fois pire en found footage.
Bah peut-être.
Je vais te mettre des trucs, tu vas voir, mais tu vas pleurer tellement c'est nul.
Non mais écoute, un film en found footage où il y a de la musique et des chants contre chants.
Non mais d'accord, oui.
Mais ils ont des
GoPro. Je suis d'accord avec toi, mais ils sont trop forts,
ils ont
Oncle Bob avec eux, ils sont trop forts, quoi, c'est tout quoi.
Oui, c'est vrai. Oncle Bob.
Oncle Bob, c'est un personnage du film qui est le meilleur personnage du film.
C'est
le seul bon personnage du film, en fait. Qui est là partout, qui est tout le temps là, qui a du réseau là où les gens n'ont pas de réseau, qui arrive au bon moment pour sauver les autres. Enfin, il est génial, quoi.
L'Américain est bricoleur.
Et en plus, il est bricoleur.
J'espère vraiment qu'il y aura une séquelle, quoi, sur Oncle Bob, quoi.
Ah non, mais le spin-off sur Oncle Bob. Oncle Bob 3D, moi je veux, tu vois.
Non mais franchement vous l'avez senti comment vous Exist? Parce que moi ça a été un supplice mais vraiment hein.
Ah oui bah, clairement hein.
Moi je sais pas j'ai trouvé ça nul mais enfin tu mets un mec qui a jamais vu de found footage devant il se fait pas chier quoi.
Mais je suis tellement pas d'accord avec ça.
Bah ouais mais
parce que je suis d'accord
que tu sois pas d'accord mais le film est nul bien sûr il est très
donc,
très
quel
nul.
Quel monde vis-tu?
Il est très très nul mais enfin il y a pire vraiment en found footage j'en ai vu des centaines là depuis 10 ans j'en ai marre quoi. J'ai vu des merdes incroyables depuis. J'en ai vu au moins 10 quoi.
C'est hallucinant dans le sens où les points de vue en fait caméra ne sont absolument pas justifiés, n'ont vraiment aucun sens.
Bien sûr,
ça fait partie du genre.
Non, je suis pas d'accord avec ça.
C'est de plus en plus exploité maintenant. Le fait de faire des champs contre champs, c'est de plus en plus exploité et sans raison.
Mais parce que quand tu parlais de si on montre ce film-là à quelqu'un qui n'a jamais vu de found footage de sa vie, ça lui plairait, etc. Moi, je suis pas d'accord dans le sens où ce qui est transcendant quand tu vois ton premier film en found footage, c'est la justification du point de vue, la justification du fait que les mecs ne s'arrêtent pas de filmer. Et c'est un peu ça le premier écueil. Mais si.
Ouais, est-ce qu'il y a une justification qui fait que les gars n'arrêtent pas de filmer?
Mais pour moi oui, carrément. Pour moi c'est
bah non.
Moi... Mais si, parce que les gars deviennent cinglés, veulent absolument terminer leur documentaire et c'est.
Oui, mais il a des GoPros, il le dit tout le long du film.
Il a même mis des GoPros sur chaque façade du chalet, c'est hallucinant.
C'est le meilleur placement de produit de tout le festival.
Et les GoPros, elles sont partout de toute façon, donc le gars va pas se faire chier à aller enlever les 50 GoPros qui sont sur tous les arbres de la forêt.
Mais ça n'a pas de sens.
Non, ça n'a pas de sens. Mais le film est nul, pourquoi réfléchir sur un film nul?
De toute façon, il le dit lui-même, il veut avoir la vidéo YouTube la plus vue sur Internet.
Voilà.
C'est le concept de base du film. Quoi. C'est la meilleure.
Le mec peut toucher des dollars et tout en mode.
Mais oui.
C'est bon, quoi.
Il y a un gros Bigfoot qui est en train de défoncer sa belle-sœur. Il en a rien à branler. Il veut avoir des vues sur YouTube, quoi. Des millions de vues, quoi.
C'est intéressant parce que donc, c'est un des créateurs de Blair Witch. On a l'impression qu'il a voulu actualiser son concept.
Tout ce qu'il a fait, c'est détruire son propre genre.
C'est tout ça fait ça.
Oui, mais son intention, je pense que c'était ça. C'est-à-dire que Blair Witch Witch, ça a quand même été bon, on aime ou on n'aime pas, mais ça a été un truc. Ils ont voilà
moi, la, promo, phénomène.
La promo oui, du non, film, c'était... on savait pas trop. Ils ont fait comme si les personnes, les acteurs existaient vraiment, enfin que c'était des personnes réelles, etc. Et puis c'était les débuts des sites web. Il y avait le site web où on pouvait aller. Et là, vous me dites, moi je l'ai pas vu, mais vous dites qu'il parle de YouTube, il utilise les GoPro, donc je pense qu'il a voulu ancrer son truc dans l'air du temps.
Et ça marche tellement pas.
Ça, oui, ça marche pas. Marche pas
soit,
ça
mais voilà, c'était sûrement son intention et c'est, ça peut être tentant.
Mais c'est assez navrant d'essayer de savoir que c'est un mec qui a participé à
mais
ce
clairement.
Il aurait mieux fait de s'arrêter avant, mais bon, c'est le tort de beaucoup de ne pas savoir s'arrêter. Ou de
clairement, bah, son plus gros problème dans le film, c'est que ça fait pas peur. Quoi.
Ouais. Il a fait le
la créature, elle est ridicule.
Il a fait quoi entre les deux?
Le costume Leclerc.
Ouais, il a fait
le costume de singe Leclerc.
Il a fait l'année dernière, ou il y a deux ans, un segment dans VHS 2 qui était très bien.
C'était pas un mec à vélo avec une GoPro?
Mais c'était encore des mecs à vélo avec des GoPro. Ouais, mais ça marchait bien.
Non, mais ça, juste un
là, pour le coup, ça marchait bien parce que c'était drôle, c'était fun, c'était voilà. Donc là, c'est chiant.
Juste un truc au niveau de l'histoire. Donc ça se passe dans la cabane des Evil Dead, exactement la même, la même cabane que dans Evil Dead. Donc les mecs, ils vont dans la forêt pour faire du vélo cross, quoi. Ils y vont pour sauter dans le lac avec leur vélo. À un moment, le Bigfoot leur défonce la bagnole. Il n'y en a pas un qui prendrait un vélo pour rentrer chez lui. Ils sont là à pleurer dans leur cabane en disant on ne sait pas comment on va rentrer, oncle Bob, on ne sait pas comment on est là. Mais ils ont 5 vélos, quoi. Chacun a un vélo.
Oncle Bob leur aurait dit.
Ils attendent qu'oncle Bob arrive.
Le pont est peut-être.
Oncle Bob, il a le pouvoir, le savoir, il sait tout.
J'ai une question pour vous. Parce que, donc moi, pour qui c'était la première édition, est-ce que les autres années, il y a autant de cabanes perdues dans les bois?
Parce que non, là, clairement, non, c'était l'année des cabanes.
Là, c'était l'année des cabanes.
Mes trois premiers jours, j'ai l'impression de les avoir passés dans les bois et non, surtout dans des cabanes isolées dans les bois.
Il y avait Ex Machina.
Il y avait Ex Machina, Goodnight Mommy, il y avait Exist.
C'est une belle cabane quand même.
Cub, c'était dans les bois aussi.
Ouais, Cub, c'était dans les bois. Il y a Tusk, je sais pas ce qu'il a vu, mais pour ceux qui l'ont vu, ça se passe dans une
pas forcément la cabine, mais la forêt, les bois,
c'est très récurrent.
Deauville, il y a deux ans, pareil, dans tous les films, c'est pas forcément des films d'horreur. Deauville, ça va être du film. Du cinéma indépendant. Et c'est un motif qui, je pense qu'il y a énormément de pouvoir symbolique.
Là, c'était hallucinant, c'était très. Enfin, limite un peu frustrant. À un moment, t'avais envie de sortir de ça. Quoi.
Et The Voices, il n'y a pas de forêt. Dans The Voices.
Si, il y a des forêts aussi.
Il y a une scène dans la forêt.
Ouais, il y a un cerf, etc., mais qui est très très bien utilisé. C'est juste un moment, quoi. Mais. Bon, par contre, ça rejoint quand même la thématique du film, enfin du festival, pardon. Il y a des bois sur l'affiche du film. Il y a un mec au milieu des bois.
Ça me rappelle cette formidable animation qui
est l'animation Photoshop. Ah oui, d'ailleurs, je tiens à féliciter le stagiaire, parce que je suis désolé, sans déconner, si c'est pas un stagiaire, je suis vraiment navré pour lui. De l'animation en Photoshop de l'affiche, c'était magnifique. Presque aussi bien qu'une soirée au Black Pearl.
Tu seras pas crédité l'année prochaine.
Il y avait un cri de loup en arrière-plan d'ailleurs.
De quoi ?
Il y avait un cri de loup en arrière-plan d'ailleurs déjà. Mais avant, t'as un petit
comme ils sont mauvais.
Est-ce que je peux en profiter pour rebondir sur les bois et le camping avec mon autre coup de gueule de cette édition?
Il nous reste plus que quelques minutes sur le sujet de Gérard May, alors on va peut-être aller à l'essentiel.
Je prends une chips au paprika. Merci. Ça tombe bien les chips parce que c'est un film sur le camping. Donc c'est The Pool. Je sais pas, je suis le seul à l'avoir vu ou pas?
Je sentais pas.
Ouais, bah t'as bien fait. Tu l'as vu? Tu l'as vu?
Pareil, bon. C'était trop tôt pour moi, j'étais trop bourré.
Donc voilà, bon bref. je vais passer vite. Voilà, avec Exist, c'était le deuxième, mon deuxième très très mauvais film hors compétition. Donc un film néerlandais, je crois. The Pool. The Pool.
Oui.
Après, je sais pas quoi dire. Voilà, clairement, c'est des gens qui partent camper au bord d'un lac. Et on nous fait croire pendant le début du film qu'il va y avoir des enfants morts, des fantômes, etc. Et en fait, pas du tout. Il y a une sirène.
Une sirène.
Il y a une sirène dans le lac. Et cette sirène, voilà, séduit les hommes. Et c'est filmé comme un porno d'M6, quoi. C'est-à-dire que le mec, le réalisateur, ou les réalisateurs, je sais pas comment ils sont, il filme ça avec un flou.
Il a fait ça tout seul comme un grand.
Ah, il a fait ça tout seul. C'est très bien. Ben, j'espère que ça sera son dernier. Et il filme ça avec un flou artistique. T'sais, mais vraiment, mais kitsch à mourir, quoi. Avec une. Enfin, bref, c'est du n'importe quoi, du début à la fin. C'est mal filmé, c'est mal joué, c'est ridicule, ça fait pas peur. Et donc voilà. Et j'étais juste désespéré parce que voilà, le film est moche, quoi. Et je ressortais, je crois que j'avais vu Goodnight Mommy pas longtemps avant. Ou voilà, dans la première scène, juste la différence
de contraste
entre comment filmer la forêt d'un côté et comment la filmer d'un autre. Donc voilà, j'espère que ça ne sortira pas. Et donc voilà, on peut passer au D'accord. Non, à la suite.
Juste super. Avant, non. Ouais. Parce que j'avais quand même un coup de gueule à dernier à faire.
Un coup de gueule de Valentin.
Ah mince. Ouais, moi j'avais un léger coup de cœur aussi.
Bon alors, non, Valentin. Non.
Bon alors, on fait
mais
vite
pas
fait.
Pas pendant un quart d'heure on et puis après
on fait vite
voilà.
Fait. Non, ouais. Moi je voudrais juste, mais. Tire, ne jamais. Si vous allez voir un film qui s'appelle Honeymoon au cinéma, ne rentrez pas dans la salle. C'est ignoble, c'est affreux, c'est chiant. Alors c'est un film d'horreur, miez-le. J'ai jamais vu ça de ma vie.
Bah, Honeymoon, bah, Honeymoon hein.
Vraiment.
À lune de miel. Hein.
Oui, voilà, non, mais d'accord. Mais enfin bon.
Mais non, c'est bien.
Non, vraiment.
Il glousse
on
vachement
on
bien dans Honeymoon.
Ça, la soirée Saint-Valentin, tu vois, pour que les gens ne reviennent plus jamais à nos soirées. Non, c'est affreux. Enfin, les acteurs sont les plus insupportables que j'ai vus de toute ma vie.
Ça, c'est en compète.
Et je pense que c'est un des trois films les plus insupportables que j'ai vus de ma vie, avec Melancholia et certainement Last Days, ou enfin un truc comme ça. Quoi. C'est ignoble, c'est chiant. C'est,
oui, mais regarde, la réalisatrice, ah, j'irai c'est une belle blonde, donc elle s'en fout.
Oui, non, mais bien... Non mais d'accord, mais enfin, non, moi je m'en fous de m'ennuyer pendant une heure et demie. Toutes les 30 secondes, j'étais en train de souffler.
D'accord.
Et je pense que tous les gars qui étaient à côté de moi étaient saoulés juste parce que je faisais toujours tout le temps quoi. C'était insupportable. C'était ignoble quoi. Pire ouais. Expérience de ma vie vraiment.
Ah moi je suis pas d'accord.
La séance était presque aussi longue que The Man in the Orange Jacket.
Ah ouais non mais même ah bon ça c'était plus intéressant je trouve.
Bon moi je suis pas tout à fait d'accord. C'est clair que c'est pas un bon film. C'est pas des mauvais acteurs hein. Justement ce sont de très bons acteurs mais c'est des très mauvais personnages quoi. Je suis pas foncièrement d'accord. Ils n'existent pas quoi. Un couple parfait comme ça ne peut pas exister.
Effectivement, parce que ça doit être chiant dans la vie.
Voilà. Après,
c'est déjà chiant pendant une heure et demie au cinéma. Alors imagine pendant 4 ans de leur vie quoi.
Moi ça m'a pas plus dérangé que ça. Ce qui m'a dérangé c'est le format quoi. Effectivement une heure et demie c'est un peu long. Moi, ça m'a fait penser à un épisode d'X-Files. Et c'est juste pour
alors,
ça
je suis d'accord
que j'étais
content. Il y a eu tellement de références à X-Files que j'ai
c'est
calé.
C'est juste pour ça que j'étais content de voir ce truc-là. Parce que je me suis dit, putain, ça fait 10 ans ou 15 ans, je sais plus maintenant que ça s'est arrêté, que j'avais pas vu ça. Et j'étais juste content.
Ouais.
Ça durait juste
ça tout
deux
temps.
Fois plus longtemps qu'un
d'accord,
épisode d'X-Files.
Bah, oui.
Mais voilà, il y a les mêmes thématiques.
Je pense à ça constamment.
C'est un peu le même
traité
truc.
De la même
voilà,
manière.
Je le défendrai de ce côté-là parce que ça m'a fait plaisir en tant que fan. Mais c'est tout. Après c'est pas aussi mauvais que ça. Mais bon.
Thomas, il a très très bien résumé tout à l'heure Honeymoon. Je sais plus comment tu l'as dit, mais c'était très très bien résumé.
Ah oui, je me souviens.
Donc c'est 20 minutes d'un couple qui glousse. Ensuite, il se passe un truc super bizarre. Du coup, le mec, il glousse tout seul pendant 5 minutes. Et ensuite, pour qu'elle reglousse, il lui fout sa main dans la tâche.
Le film dure 1h27. Voilà, donc vous avez le découpage.
Grosso modo.
Non, mais c'était.
N'y allez pas.
Exactement. Ça.
Donc, X-Files va reprendre, je crois, c'est ça. Donc,
oui, j'en parlais la semaine dernière.
Reprenez la série et laissez tomber Honeymoon. Hein, après oui.
Si je peux juste, mais vraiment en 5 secondes, recommander un film qui était hors compétition,
ah oui,
je crois.
Ah oui, il y en a quand même, donc on n'a pas parlé encore.
Ah, il y en a tellement. Donc...
Ouais. On a
c'est Monsters, un film de super-héros japonais. Délicieusement,
ça,
what the fuck.
C'était la philosophie du what the fuck. Quoi.
C'était, mais vraiment, moi j'ai trouvé ça extrêmement agréable et c'est vraiment, vraiment à voir. Ça ouvre l'esprit de se voir ce genre de choses, vraiment.
Le monde, enfin l'Europe n'est pas prête pour le cinéma japonais et Monsters le prouve très très bien quoi.
C'est ça.
On était avec Margot, on était mais tétanisés devant tellement de what the fuck, on comprenait rien à ce qui se passait et en même temps on comprenait tout et en même temps ça nous faisait rire, en même temps c'était pas drôle, c'est ça qui est dingue en fait.
Mais c'est marrant parce que tout à l'heure on parlait de la multiplicité des registres dans The Oasis, par exemple, mais là il y a 4000 registres différents dans ce film.
Ah oui,
c'est hallucinant et ça procure un effet de sidération. C'est vraiment, à voir quoi.
Par
c'est
exemple,
une expérience
la fin,
à vivre.
La scène de fin est absolument sidérante et pas drôle du tout, mais moi j'étais mort de rire quoi. Il y a une pluie de morts, mais genre, enfin, ça tombe comme à Gravelotte quoi. Et ça n'arrête pas. Et c'est pas du tout drôle parce que. Mais moi j'étais mort de rire.
Référence régionale.
C'était trop bien.
Tu as tout dit. C'était
tu
magnifique.
Devais placer le mot gravelotte, c'est ça.
Je vais placer le mot gravelotte.
Et donc le réalisateur, quelqu'un qui a largement fait ses preuves, hein,
ouais,
donc,
c'est
de Ring,
le réalisateur de The Ring,
Ring alors, Darkwater.
En plus, son dernier film, c'était The Complex, qui était en compète l'année dernière ou il y a 2 ans à Jarmé et qui était très très nul. Et très 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 nul. Et moi, j'attendais vraiment rien du tout de ça, mais c'était génial. C'est l'acteur principal de Battle Royale, qu'on n'a pas vu quasiment depuis Battle Royale, en tout cas pas en France. Mais ouais, non, très très étonnant. Ouais.
Bah, j'ai pas vu. C'est un remake d'un film coréen, apparemment. Mais après, tout à l'heure, on en parlait de ça, de nombreux degrés de lecture. Tu disais toi-même, Valentin, dans un de tes articles, voilà, les Asiatiques ont cette possibilité de mélanger les genres que nous, on n'a pas du tout en France. Alors, en général, nous, on a,
mais
on
même
a un registre.
En Europe, en général.
Voilà, si on fait un film d'humour, il y aura de l'humour. Et y aura
en
rien
Europe,
d'autre,
qui
quoi.
Sait le faire, à part les Anglais, et c'est tout, quoi.
Et c'est
donc,
pour,
c'est juste une question
d'avis
d'habitude,
oui.
D'habitude,
ouais,
voilà.
On n'est pas prêt, quoi.
Le film est assez indéfinissable, et c'est en fait à la fin du film qu'on s'est rendu compte vraiment. Mais en fait, c'est un film de super-héros. Mais c'est même pas si évident que ça. À la base, c'est une histoire d'affrontement entre deux héros qui ont des pouvoirs contradictoires et qui est en même temps tellement répétitive que ça peut en être agaçant. Mais c'est extrêmement inventif et vraiment
à voir. Voilà. Par curiosité, quoi.
Ouais, okay. Voilà, c'est ça.
Bah, on va conclure sur le sujet.
Juste
peut-être
30 secondes pour les... Juste aller applaudir le gagnant de la compétition court-métrage.
Je voulais parler...
Qui était,
ou pas. On va parler du palmarès, en fait. Je pense que c'est important, reprendre peut-être.
Ouais,
donc, pour certains films, on en a déjà parlé. Donc, je vous laisse... Allez, voilà.
Il faut refaire tout le.
D'un prix à l'autre, ouais. Donc, It Follows, qui a été le grand gagnant.
Ouais, qui a reçu deux prix. Donc, prix du. Bah, le grand prix plus le prix de la critique. Voilà. The Voices de Marjane Satrapi, pardon, qui a reçu le prix du jury ex aequo avec Ex Machina.
Ouais.
Et le prix du public, normal. Good Night Mommy, prix du jury jeune du conseil régional. Et prix jury sci-fi. La musique originale, on le disait tout à l'heure, pour These Final Hours. Mm-hmm. Et enfin, effectivement, le prix du court-métrage pour Abana.
Bah, par exemple, alors.
Bah, il n'y a rien à dire, c'était
juste
largement
génial.
Au-dessus de la mélodie.
Bah, alors,
moi, je crois qu'on
n'est
pas trop d'accord.
Ouais, vraiment,
d'accord.
Alors, moi, j'ai adoré Abana.
Jusqu'au
et je pense que
Margot
est pareil avec moi. J'ai adoré Abana jusqu'au dernier plan.
Ah oui, jusqu'au dernier plan.
Jusqu'au dernier plan, on est d'accord.
Et
c'est quand même out.
Bah, c'est le problème. Bah, j'aurais voulu que ça continue, quoi.
C'est ça le problème, ouais.
Le problème,
ça se termine, c'est une non-fin.
C'est un film
qui se termine sur une non-fin.
Ouais, une non-fin. Mais moi j'étais extrêmement frustré, j'avais envie que ça continue, quoi.
Bah, moi j'étais beaucoup plus transcendé par Shadow, par exemple.
Visuellement, c'était incroyable, c'était mieux que beaucoup de films triple A.
Ah oui,
Juste au niveau visuel, et ça prouve aussi qu'on peut faire un faux documentaire sans donner la gerbe aux gens.
C'est un film qui est beau, qui est très bien joué, qui est magnifique, les effets sont excellents, tout est génial, mais il y a vraiment le dernier plan qui pose problème.
Ah oui, c'est sûr, le problème,
c'est le format. Il y a un seul truc qui pose problème, et c'est ça.
C'est la fin du film, en fin de
parfait.
C'est son format, ouais, c'est clair.
Ah ouais.
Là-dessus, on est d'accord. Après, je dis que c'est au-dessus du lot, oui et non. Bon, il y avait des trucs très très mauvais. Alors, qu'est-ce que ce film français que
rien ne peut t'arriver.
Puzzle.
Oh, mais quelle horreur.
Rien ne peut t'arrêter, mais s'il
y avait
calmez-vous pas tout le monde en même temps, en revanche, je sens que ça vous galvanise.
Mais là, il y a des choses.
L'un après l'autre, alors allez-y.
Ah, mais j'étais colère dans la salle. Rien ne peut t'arriver, j'accrochais mon siège, je te jure, j'avais envie de sortir.
Non mais clairement.
Quand tu vois en plus le générique qui était long, ils avaient plein de pognon pour faire un plus bel âge, c'était incroyable.
Le générique est plus long que le film. Et voilà, il y a eu deux films en crowdfunding dans la compétition, Puzzle où ils ont été 4 à payer. Et rien ne peut t'arrêter où ils ont été à peu près 3000 pour financer une merde. Mais
Valentin,
non, c'était une sombre merde. David Oureg, arrête.
Valentin, t'avais très bien résumé la chose quand on est sorti de la séance, je me souviens.
De quoi ?
Tu avais dit rien ne peut t'arrêter, un court métrage de Luc Besson.
Bah, en fait, déjà, c'est un film.
C'est
un film qui a un titre de film français.
Non, mais c'est le plus pour
normal.
SNCF, ou genre
c'est par exemple rien ne peut t'arrêter, un film de Mélanie Laurent, tu vois.
C'est
un truc comme ça. Sauf que quand tu le regardes, t'as l'impression que c'est du Besson.
Moi, j'échange ça contre 3 heures de Mélanie Laurent. C'est pour dire.
Et le non, mais vraiment pour moi le pire c'était Puzzle.
Ah, moi j'ai bien aimé.
J'ai préféré Puzzle, j'ai trouvé ça.
Alors, pour moi, j'avais l'impression d'être devant un film de Haneke, mais un truc chiant à l'amour, quoi. Et ouais, mais il se passe rien.
Mais sans Emmanuel Riva cette fois en plus.
Ouais, mais avec un vieux quand même qui va bientôt claquer. Enfin voilà quoi.
Non, je trouve ça plutôt sympa. Non, il y a des bonnes idées. Voilà quand il.
Attends, excuse-moi, il y avait deux jumpscares. On les a vus 1000 fois dans Insidious, Conjuring et autres machin.
Non, non, mais quand il y a le. Bon, bref, on en parlera une autre fois.
Ah,
mais
oui,
moi j'ai plutôt bien aimé quoi.
La créature, on la voit pas assez quoi. C'est ça le problème.
Si je peux me permettre, pour moi, le gros problème de la sélection court-métrage, c'était qu'il y avait des films qui vraiment prenait au trip et embarquait immédiatement le spectateur, ce qui est déjà vraiment quelque chose pour un court-métrage. C'est le cas de Abana, c'est le cas de L'Art du Geste, dont on n'a pas encore parlé, mais qui avait une chute pour moi tellement décevante en fait, et qui du coup cassait toute la première bonne impression qu'avait fait le film. Et moi, si j'avais été jury court-métrage, personnellement, j'aurais immédiatement élu Shadow,
qui était
vraiment très
bien. Sur ce principe-là, sur le principe de comment faire un court-métrage, c'est-à-dire avoir un début, un milieu et une fin. Shadow, c'est le seul qui respecte effectivement.
Oui, mais puis en même temps, pour moi, tu peux pas élire un film qui t'a vraiment séduit du début, sauf à la chute. Si le court-métrage se veut être un film à chute et que la chute est moisie,
non, clairement. Mais y a pas vraiment de chute en plus dans Shadow, donc
non, Shadow,
moi j'ai beaucoup aimé la maîtrise.
Mais c'est un film
je mettrais en deuxième derrière. Abana était au-dessus du lot, voilà, parce que graphiquement, visuellement, il était, voilà, il est juste incroyable. Et ce mec bossera dans la pub certainement pour Calvin Klein, je sais pas. Ou... Donc voilà, c'est une très très bonne carte de visite pour lui.
C'est un espagnol, hein, c'est ça?
Non, c'est tout était français.
Compétition entièrement française, mais qui a...
il a tourné à Cuba.
Ouais. Qui était
tourné, d'accord. Donc on entendra parler de lui, Édouard Salier.
Je pense qu'on entendra parler de lui, ou pas, ou je sais pas.
J'espère en tout cas. J'aimerais bien voir sur un.
J'espère.
On va clore sur cette note, voilà, optimiste, et peut-être juste.
Si, je suis désolé, on peut pas ne pas parler de ce film.
On veut clore, mais on peut pas parler de What We Do in the Shadows et de Jupiter Ascending, parce que celui-là aussi va faire débat, non?
Ah ouais, j'avoue. Mais...
Alors, Jupiter Ascending, c'était.
Voilà, vous avez le droit à.
Tu veux qu'on arrête ? On arrête sinon.
Deux phrases sur What We Do in the Shadows, dont on avait parlé dans l'émission précédente.
D'accord, deux phrases.
Et puis, Valentin, Jupiter Ascending, qui est sorti la semaine dernière. Voilà, aussi.
Alors, moi, deux phrases. What We Do in the Shadows, le premier plan, j'ai rigolé. Le dernier plan, j'ai rigolé. Et j'ai rigolé entre tous ces deux plans-là. Je me suis pissé dessus pendant une heure et demie. C'est juste parfait. Voilà.
Donc, rappelle juste le synopsis.
Le synopsis, c'est un film néo-zélandais par l'équipe des Flight of the Conchords. Donc c'est une équipe de tournage qui va tourner dans une colocation de vampires en Nouvelle-Zélande. Donc on suit quatre vampires. Et donc voilà, c'est juste à se pisser dessus. Ils reprennent tous les codes du vampire et aussi du film de loup-garou. Et ils les détournent. Et voilà. Et moi, c'est juste le truc le plus drôle que j'ai vu de toute la compétition.
Tout à fait d'accord. Non, c'est un film qui est génial, à mourir de rire. Enfin, qui est très très bien maîtrisé. C'est excellent.
Et Jupiter Ascending.
Alors Jupiter Ascending. Comment dire, bah, en fait, c'est le problème, c'est qu'on peut pas ne pas en parler parce que c'était le gros truc, quoi. Mm-hmm. C'était le gros film. C'était il y a deux ans, les Wachowski ont présenté Cloud Atlas à Gérard May, qui a galvanisé les foules et moi avec. Enfin, pour moi, c'était le gros coup de cœur de l'année carrément. Et donc forcément, j'attendais beaucoup de Jupiter Ascending et finalement, je me retrouve devant un film qui est magnifique, qui est très très bien filmé, les effets spéciaux sont incroyables. Et finalement, avec un scénario qui est tellement, tellement mauvais.
Alors Valentin est DJ en même temps.
Voilà, c'est ça. Ah, je fais qu'un chose en même
DJ
temps.
Il a fait DJ au Black
là.
Pearl pendant 3 jours. Il continue.
Et donc non, mais devant un film qui est vraiment pas bien écrit. Alors en le regardant, vraiment, on pense à tellement de films de science-fiction, mais en fait pas une seule fois à une idée originale. C'est-à-dire qu'en le regardant, on a l'impression de regarder Dune, on a l'impression de regarder Les âmes vagabondes, on a regardé l'impression de regarder Divergente, on a l'impression de regarder tout ce qu'il y a Star dans le titre, donc Star Wars, Star Trek, Map to the Stars, et j'en passe. Non, mais c'est vrai, on a l'impression de regarder tout en fait, et en même temps de regarder rien. Parce que.
C'est assez bien dit. Hein.
C'est super bien dit.
Non, mais parce qu'il se passe rien dans le film. Enfin, c'est chiant. Enfin, c'est. Non, mais vraiment, c'est chiant. Bah, c'est...
Ils ont développé tout un univers, etc.
En fait,
mais y a des
quasiment
lacunes,
toutes les scènes prises, les unes. Prises individuellement, elles sont magnifiques, elles sont très bien faites, elles racontent quelque chose, c'est très très bien. Mais mis ensemble, c'est le truc le plus bateau que j'ai vu depuis longtemps. Je suis très très déçu des Wachowski qui font ça.
On s'en fiche un peu, c'est populaire et ça ouais. va.
Non, mais bien sûr, non, mais c'est populaire après... et ça marche et c'est très bien. Mais d'un autre côté, moi je suis quand même très. Si, ça marche, ça marche.
Non, moi,
si, je suis désolé.
C'est le blockbuster populaire par excellence. J'ai juste un mot à dire. J.J. Abraham, regarde-le et essaye de faire aussi bien.
Bon, je suis pas. Alors là, je suis plus trop d'accord avec lui. Mais.
Mais vous en parlerez.
Je suis à moitié d'accord, mais c'est vrai que voilà, le problème, c'est le scénario.
Vous en parlerez plus tard, notamment pendant notre interlude musical. Comme ça, ça va divertir nos auditeurs. Et puis nous, on a le temps de siroter une petite bière. Et puis en plus, c'est en lien direct avec ce qu'on vient d'évoquer, puisque on vous propose d'écouter un extrait de la bande originale de It Follows. Par Disaster Peace, qui est un jeune New-Yorkais, enfin il est de Staten Island, je crois. Et voilà, c'est très sympa. Et puis Étienne va nous balancer le son de la musique du titre, Title. Début, voilà. Voilà, donc nous voilà de retour avec. Donc on vient d'entendre la bande originale de It Follows qui avait tellement séduit Thomas. On entendra un autre extrait tout à l'heure. Voilà, mais on va poursuivre l'émission avec les sorties cinéma. Donc les sorties du 11 février. On a tous un petit peu pris en charge certains films. Margot, qui est en train de se marrer, va nous parler de 50 nuances de Grey.
Alors, 50 nuances de Grey. Donc,
vous en avez forcément entendu parler.
Oui, bien sûr. Après, voilà, je vais exprimer un point de vue purement, vraiment extrêmement subjectif.
Le point G.
On ne l'attendait pas. L'adaptation de donc, la saga la plus anti-féministe du monde sortira le 11 février. Pour ceux qui l'ignoraient, c'est l'histoire...
En même temps, elle a envie de se faire tringler, arrête. C'est bon. Elle est contente.
Attends,
de ça.
Attends, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Donc, pour ceux qui l'ignoraient, c'est l'histoire d'Anastasia, une jeune étudiante...
Un peu le prénom, quoi, Anastasia.
Voilà, c'est ça. Peu dégourdie et de Christian Grey, riche, BG, ténébreux. Une histoire d'amour sur fond de sadomasochisme. On avait espéré un titre...
Ah, bon,
bah quoi, non mais je dis vraiment ce qui est quoi. C'est,
j'adore ce projet.
C'est vraiment en fait, ça.
J'étais juste en train de m'imaginer à l'époque où je lisais le bouquin, c'est ça qui était drôle.
Bah voilà, donc moi aussi j'ai subi un morceau de cette torture qui est de lire cette chose-là quoi. On avait espéré un titre un peu plus fidèle du type « Laisse-toi violer ma fille », mais le syndrome de Stockholm est visiblement toujours un modèle amoureux acceptable. Donc voilà, vraiment d'un point de vue purement cinéma, si on en croit en tout cas les bandes annonces qui ont déjà été dévoilées, ce sera voilà, satiné, académique, absolument pas sexy, et mal joué et mal écrit. Donc,
allez-y.
je recommande plutôt alors, à nos auditeurs de relire Le Marquis de Sade ou alors Histoire d'eau, ce sera.
Ou alors de venir à la soirée Saint-Valentin qui sera plus.
Non,
plus
mais
hot,
voilà, franchement.
Et plus sexy.
Le samedi 14 février
au voilà, Cinéma Palace à Metz.
Pour voilà. Un tarif de 10 euros, non, 9 euros pour les amis.
Prends ta
voix,
la plus sexy, Charlotte.
Voilà. Moi, j'ai essayé, mais. Ok, et puis ben, pour le 11 février, si je ne m'abuse, il y avait parmi vous pas d'autres films dont vous deviez parler. Moi, j'avais retenu un film italien qui s'appelle Les Merveilles. Le titre original, ben, heureusement que j'ai Valentin à ma droite, Les Maravigliés.
Les Meraviglie.
Les Meraviglie. Oh.
Pasta carbonara.
Qui veut dire qui
pizza frutti di mare. Qui veut dire Les Merveilles.
D'accord,
comme en français.
Okay. Voilà, et c'est un film qui a été présenté au dernier festival de Cannes et qui a été récompensé du Grand Prix. Alors à Cannes, c'est un petit peu compliqué les prix, en fait, on ne sait pas trop. Voilà, il y a la Palme, il y a le prix du jury, je crois que Mommy et puis le film de Godard ont été récompensés ex aequo.
Ex aequo.
De Godard, ouais, c'était
Adieu
au langage.
3D, il ne faut pas oublier. Adieu au langage 3D.
Voilà, film qui dure 1h20. Voilà.
Sinon, on peut te refaire le son de la bande-annonce en direct, là. Je le sens,
on a assez perdu de temps.
Allez-y. Non. Et donc là, c'était le Grand Prix. Je crois que là, ça récompense le réalisateur, il me semble. Et là, en l'occurrence, c'est une jeune femme de 32 ans qui s'appelle Alice Rohrwacher.
Elle ne s'appelle pas Anastasia, elle.
Elle ne s'appelle pas Anastasia et ce n'est pas très italien, mais pourtant, elle est d'origine. Bon, voilà. Et je pense que le fait que Jane Campion était présidente du jury de cette édition, c'est peut-être pas innocent. Enfin, c'est peut-être pas un hasard qu'elle ait récompensé voilà, une femme. Le film... l'intrigue, ça se passe en Ombrie durant l'été. Ça suit une petite fille qui s'appelle Gelsomina, qui vit avec ses parents et ses sœurs dans une ferme un peu éloignée de tout. Et qui, c'est une famille qui produit du miel. Les petites filles, elles ont un père très autoritaire qui les tient donc éloignées de tout. Et tout cela va changer, va être bouleversé quand il y a une équipe de tournage d'un jeu télévisé qui envahit leur univers. Donc d'après la bande-annonce, ça a l'air d'être quelque chose de très poétique, de très joli. J'aime beaucoup l'affiche aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Hein, ça ressemble un peu. C'est une affiche où on voit C'est une peinture. On voit le visage de, d'une jeune fille avec une, donc
avec
une abeille
ouais.
Et ça fait penser à du fauvisme presque. Enfin, c'est, ça fait très naïf. Ça semble un peu à du Matisse. Voilà, donc moi j'ai assez hâte de découvrir ça. Et ça sort le 11 février. Voilà. Et du coup, on peut passer peut-être aux sorties du 18 avec sans transition Bob l'éponge, n'est-ce pas ?
Ah ouais !
Comment tu dis Bob l'éponge en italien ?
Bob la spugna, mais je sais pas si elle s'appelle vraiment comme ça, non ? Enfin bref, non mais Bob l'éponge, oui. Alors Bob l'éponge, un héros sort de l'eau, s'il te plaît. Le titre intégral, c'est
mais
ça.
Mais du coup, c'est un reboot en fait.
Ah non, pas du tout, c'est une suite apparemment du premier film. Alors le premier film, moi j'avais adoré le premier film. J'avais trouvé ça mais tellement hilarant. Enfin ça, je connaissais pas. Enfin je connaissais vraiment que Bob l'éponge comme ça parce que j'ai un petit frère, j'ai une petite cousine, ils regardent tout ça. Mais en fait en regardant, c'est vraiment il y a un humour absurde. Ouais bon ok d'accord j'aime bien.
Tu l'as vu parce que t'as envie.
Il y a un humour absurde en fait qui s'adresse pas seulement aux enfants.
T'as un côté
et c'est ça que je trouve très très bien.
Dans le premier, il y a David Hasselhoff dans son meilleur rôle.
Et c'est ça. Alors oui, justement, il y a David Hasselhoff dans le premier Bob l'éponge et qui c'est assez génial.
Le rôle de la
Donc oui, enfin, il y a un humour qui est un peu pour tout le monde et c'est très absurde. Moi, j'aime, enfin, en tout cas, j'avais beaucoup aimé. Là, c'est la même équipe que la série qu'on retrouve pour réaliser le film, pour les voix. Enfin, on retrouve exactement les mêmes personnes. Et alors en plus, alors Jenny avait fait le résumé, je crois, la semaine dernière du film Bob l'éponge, mais en gros voilà, c'est ça. De toute façon, tout est dit dans le titre, quoi. Il sort de l'eau et puis il arrive dans une autre dimension qui est la nôtre, en fait. Et alors, ce qui est assez étonnant dans le film, c'est que moi j'ai très très hâte de le voir parce que en plus des personnes qui donc sont responsables de la série et qui travaillent dessus, il y a des grosses pointures du cinéma qui ont participé à ça. Alors par exemple le directeur de la photographie, c'est Filmeu, qui est le collaborateur de Martin Campbell et qui a été par exemple directeur de la photo sur Casino Royale et GoldenEye. Je ne connais pas que James Bond dans ma vie, hein, mais bon, c'était pour dire quoi. Le monteur, c'est David Diane Salter qui a fait le montage de beaucoup de films Pixar. Comme Le Monde de Nemo par exemple ou Toy Story 2 je crois, et les décors sont de Luc Freeborn qui a signé les décors d'Inception, donc on a quand même des grosses grosses pointures. Moi j'ai très hâte de voir ce que ça donne d'un niveau technique évidemment et puis bah, forcément le film en soi parce que c'est par les personnes qui s'occupent de Bob l'éponge et...
D'accord.
Donc oui, non, pourquoi pas, oui.
Mais par contre,
ils ont... c'est pas drôle. Arrête de rigoler, c'est pas drôle.
Mais par contre, ils ont changé la technique d'animation parce qu'il me semblait que c'était de la 2D le premier.
Alors oui, alors
de 2D,
c'est ça. Oui.
Et là, c'est de la 3D.
Et là, ça a l'air d'être de la 3D, ouais.
D'accord.
Donc justement, pareil, j'ai hâte de voir ce que ça donne.
C'est pour ça que c'était à se demander si c'était un spin-off parce que ça a vraiment rien à voir avec les dessins animés de base et puis le premier film, quoi.
On verra. Non mais on verra, moi j'ai très très hâte de voir parce que justement les personnes qui c'est les mêmes qui font la série qui s'occupent de ça dans une autre technique, donc moi j'ai vraiment envie de voir vraiment ce que ça donne. Ouais, pour moi c'est très intéressant à découvrir. Ouais.
D'accord, donc sur les écrans le 18 février, alors il y a une avant-première à Metz au Palace le dimanche 15 février et on fait gagner des places sur le blog, vous pouvez participer jusqu'au 13 et l'adresse du blog, Thomas, c'est
thebloggercinemaclub.com.
Voilà, n'oubliez pas le S bloggers, on est plusieurs, hein, on est plus d'une quinzaine. D'ailleurs, on salue ceux qui sont pas là, hein, on a des amis qui sont au Japon.
Kemcub aussi, qui est pas là.
Ah, mais Kemcub, voilà. Kemcub, on le salue, et voilà, puis on est en train d'essayer de résoudre son énigme, on a reçu.
On aimerait bien un autre indice.
Un mail intéressant, et on est en train de. Voilà. Kemcub, on essaie de déchiffrer. Est-ce que c'est Kubrick ? Est-ce que c'est autre chose ?
Est-ce que tu aimes Kubrick ou tu n'aimes pas Kubrick ?
C'est ça.
Bah, c'est son hic, alors.
Ouais. Alors Thomas pensait que c'était l'un d'entre nous qui avait une double personnalité.
Oh, bien vu. Et c'est un fin limier quand même, ouais, Thomas. J'ai remarqué, il a un sens de la déduction assez incroyable.
Il devine les twists avant tout le monde.
Non, mais c'est bon. Non, je suis très très sérieux, quoi. Je pense qu'il a un petit personnage caché dans sa barbe. Comme ça,
je pense que Thomas, quand j'ai rencontré les gens du blog, en gros, la première question qu'on m'a posée, c'est toi, Kemcub ?
C'est la question du Zeki, à tout nouvel arrivant. Non, c'est toi, Kemcub.
Voilà. Donc, Kemcub, pour rappel, hein, c'est notre fidèle follower.
C'est notre mascotte.
Depuis le début, hein, il commente tous nos articles. Et puis, on est rassuré parce qu'on n'a pas de commentaires sur les bandes originales, mais il les lit aussi. Donc,
il est membre d'honneur aussi.
Membre d'honneur, mais on attend qu'il se présente.
On attend toujours. Il y a une place de libre là, Kemcub. Écoute, si tu veux, tu viens, tu t'assois, il y a un petit banc.
On avait pas une énigme aussi pour Kemcub ?
Ah, vous avez une énigme pour lui.
Ah, je peux en improviser une.
Là, lui, on voulait faire une énigme et puis lui donner son cadeau si, s'il arrivait à.
Ouais, en tout cas, on sait qu'il n'aime pas Quentin Dupieux, mais qu'il va quand même aller, qu'il a quand même tenté de jouer au jeu où on fait gagner aussi des places pour le
il
dernier
a
film
hâte
de réalité.
De voir Mad Max 4.
Exactement aussi. Et par contre, vous l'avez vu, désolé, je remonte sur
PV. Camcup, qui est PV? Ouais,
alors pour moi, c'était Patrick Vieira, mais je pense qu'il n'est pas très fan de. C'est pas The Footballer Cinema Club, donc
de
je.
Paul Verhoeven.
Paul Verhoeven.
Paul Verhoeven, ça fonctionne.
Ça, on n'a pas réussi à décrypter. Oui, coup, mais parlons de réalité.
Ouais, de réalité.
Coup,
est-ce que vous avez été le voir, Gérard?
Oui, on l'a vu.
Absolument, écoute, je vais essayer de faire assez court.
Bon, Etienne, l'émission durera 3 heures, je tiens à te le dire. Préviens des proches.
Non.
Soit on fait trop court, soit on fait trop long, mais il y a un moment où il faut. Voilà.
Non, mais juste par rapport à réalité, qu'on a eu donc vraiment la grande chance de découvrir à Gérardmer, avec notamment Jonathan Lambert qui a transmis en début de projection un discours pour Alain Chabat qui était assez mémorable.
C'était un des meilleurs moments du festival.
Ouais, non, vraiment, vraiment. Et donc, juste pour parler du film lui-même, donc moi je m'exprime en tant que vraiment fan du travail de Quentin Dupieux à la base, c'est pour moi son film le plus abouti, le plus culte, le plus improbable, le plus no reason, vraiment. Il est.
Wow. Comment tu l'as bien placé celle-là?
Ouais, non mais franchement, c'était tellement ça quoi. Le film n'a.
Oh, le placement de produit de Margot.
J'espère que vous avez apprécié. Non mais enfin, Alain Chabat est juste pour moi au sommet de son art, vraiment, qui joue le rôle principal face à Jonathan Lambert, à toute une galerie de personnages vraiment, vraiment cultes, et c'est un très très grand moment de cinéma à voir pour moi, vraiment.
D'accord. C'est sorti quand, le 4 février dans les salles?
Le 18 février.
Ça sort que le 18
février. Mon cher Aurélien.
Très bien, justement, on retombe sur nos pattes.
Et on fait gagner des places, hein, donc Thomas, l'adresse.
Sur thebloggerscinemaclub.com.
Voilà. Ouais, non, vraiment à voir, extrêmement maîtrisé, extrêmement surréaliste, vraiment très 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 bien pour moi. Si
je suis tout à fait d'accord avec toi. Non. En même temps, c'est proche et c'est loin de l'univers des autres films de Dupieux.
Ouais.
Pareil, j'ai adoré tous ces autres films, donc je suis pas non plus très. Voilà. Mais moi, ce qui m'est venu à l'esprit en fait en le regardant, c'est que j'ai l'impression que entre ces autres films et celui-ci, il passe d'une logique de l'illogique à une logique de l'impossible en fait.
Waouh.
Oh.
Ça sera peut-être mis sur
alors,
la jaquette.
Je l'aurais dit, si vous voulez, il passe d'une logique de l'illogique à une logique de l'impossible. Vous le mettez sur une jaquette quand vous voulez. D'ailleurs, je suis preneur pour Le Cercle, pour les autres émissions de cinéma, c'est quand vous voulez. Non, mais évidemment, oui, c'est un film qui quand t'en ressors, c'est en même temps drôle, c'est en même temps what the fuck, et en plus, ça te retourne le cerveau. Ça a de quoi faire dresser les cheveux sur la tête de David Lynch qui
ouais,
sont déjà bien dressés, donc
c'est de dire à quel point. Juste pour la petite anecdote, quand le film s'est terminé, Valentin s'est penché et m'a dit: c'est marrant, j'ai toujours eu l'impression que David Lynch faisait des films compliqués avant.
Mais c'est vrai.
Ça, c'était vrai.
Voilà, il y a quelque chose de vraiment labyrinthique et en même temps de tellement cohérent, c'est vraiment merveilleux. Voilà.
Ah, ça me fait un enchaînement d'enfer.
Allez, c'est parti.
Sur labyrinthe. Parfait. Donc moi
ne me remercie pas Aurélien.
Merci Margot. Donc voilà, moi j'ai pas de sortie ciné, désolé. À part l'enquête, je crois que ça sort le 11 décembre, n'importe quoi, le 11 février.
Ah oui, tu voulais en parler?
Bah oui et non, parce que je me suis pas renseigné plus que ça, mais voilà, Denis Robert, figure messine incontournable du journalisme, donc voilà, qui a participé, dont une bande dessinée a été inspirée par tout son travail sur Clearstream, une énorme bande dessinée. Je sais pas combien de centaines de pages, vient d'être adapté au cinéma avec, j'allais dire malheureusement, Gilles Lelouch dans le rôle de Denis Robert. Mais pourquoi pas? Sait-on jamais? Peut-être une bonne surprise, on verra bien. Denis Robert dit qu'il a pleuré à la fin du film. Alors je sais pas dans quel sens on doit le prendre, s'il a pleuré de joie ou de tristesse. Non, apparemment il a bien aimé le film, donc c'est un bon. Donc voilà, c'est peut-être un des seuls trucs là qui m'intéresserait. Désolé, du coup, j'ai foiré mon lancement sur le labyrinthe.
Mais j'ai envie de te dire, là, t'es en train de tout me bouleverser parce qu'il y a encore des sorties ciné. Putain, c'est dans DVD.
Ah ben voilà.
Donc tu vas un peu patienter pour ton tour.
Non, mais c'est pas grave, revenons en arrière.
Hop. Margot, tu referas une transition, tu trouveras quelque chose pour.
Bah écoute, il n'y a pas de soucis, j'improvise.
Non, parce que bon, Valentin, il va encore nous parler de Kingsman.
De Kingsman, ouais.
Mmh. Ah oui, d'accord, j'ai un suivi, moi. Mais on me donne pas les papiers, moi, personne m'envoie des mails.
Mais non, mais il faut suivre.
Vous avez pas reçu le mémo?
Mais oui, le mémo.
ouais, alors attendez, je vais rechanger les vinyles et puis en même temps parler. Alors je vais vous parler de Kingsman, qui est le nouveau film de Matthew Vaughn, qui est le réalisateur de Kick-Ass, mais également le producteur de Snatch, de Arnaque, Crime et Botanique, de Harry Brown, de X-Men,
de plein de trucs bien.
Plein de trucs très très bien. Ouais.
Et il va bosser sur les 4 Fantastiques aussi.
Il va bosser sur les 4 Fantastiques.
Qui a l'air très très bien.
Alors Kingsman, c'est l'histoire d'un jeune en fait qui intègre un groupe d'agents secrets, qui s'appelle donc Kingsman. Alors c'est la bande annonce en tout cas donne très très envie parce que c'est quelque part entre James Bond et Kick-Ass.
James Bond.
Oui James Bond. Oui.
Tiens
bon. Rien que le casting fait rêver parce que c'est tous les mecs les plus incroyables, les plus sexy, les plus british, les plus géniaux que j'ai pu voir réunis en un seul film. Il y a Colin Firth, il y a Michael Caine, il y a Mark Strong, il y a Mark Hamill et il y a Samuel L. Jackson. Je dis rien que ça.
Il y a Mark Hamill. Ça fait rêver.
Il y a Mark Hamill.
En vrai.
Ouais, en vrai, ouais.
Sans sa voix.
Avant Star Wars, il fait un vrai film. Ouais.
Bah ça, c'est juste.
Enfin, Matthew Vaughn, c'est une valeur sûre. Le film a l'air d'être fun, drôle. J'avais lu une interview de Matthew Vaughn qui disait qu'il avait écrit le film avec Mark Millar, donc l'auteur des BD Kick-Ass, quand ils étaient bourrés. Donc moi, vraiment, ça me donne envie d'aller voir un film écrit quand des mecs sont bourrés. Ça a l'air d'être très très fun, très très drôle. Enfin, c'est pour moi, c'est. C'est une des grosses attentes de la semaine du 18 là parce que c'est.
D'accord.
Moi, tu l'as bien vendu parce que j'en ai vraiment mais pas du tout entendu parler quoi.
Regarde ma bande-annonce, c'est ça a l'air très très fun.
Carrément, tu m'as donné très envie.
Ouais, très divertissant. Ouais. Et moi j'avais juste relevé pour conclure sur les sorties du 18 février un film français qui s'appelle Vincent n'a pas d'écailles, qui est distribué par Le Pacte. Alors je leur ai demandé de me donner une copie près, j'ai pas réussi à en avoir, donc je vais pas vraiment pouvoir vous parler du film. C'est vendu comme le premier film de super-héros français, mais si vous regardez l'extrait qui est en ligne, c'est pas du tout ça, ça m'a l'air très ancré dans la réalité. C'est l'histoire de Vincent qui découvre qu'il a des pouvoirs surhumains qui se développent au contact de l'eau.
D'accord.
Et voilà, il tombe amoureux d'une jeune femme, Lucie, et donc il va devoir gérer le fait de lui annoncer ça. Et l'extrait que vous pouvez découvrir en ligne, c'est justement une scène où il plonge dans une piscine pour lui montrer ses capacités. Et moi, je sais pas, je sens qu'il y a un petit potentiel sur ce film. Le réalisateur est également le personnage principal, donc Vincent. Il s'appelle Thomas Salvador. Je crois que c'est son premier projet.
Fils d'Henri.
Ou pas, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas.
Il n'y a plus de buzzer cette semaine.
Étienne, il est désespéré.
Je suis curieuse de découvrir ça. Et puis, alors, l'affiche, c'est. J'arrête pas de parler d'affiche. Et en plus,
on est à la radio.
Voilà, on est à la radio, donc je fais plein de références visuelles. Vous avez remarqué, ça fait logique. Mais elle est sympa. Ça me rappelle un petit peu celle de L'Inconnu du Lac. Vous voyez, un dessin comme ça. Donc,
très, très bien.
Tu veux dire un truc qui s'est fait interdire ou...
C'est ça. Non, mais c'est vrai que je suis sensible aux affiches, un peu comme pour quand on choisit un livre à la jaquette. Et l'affiche peut évoquer pas mal de choses. Donc.
Ta Charlotte est une super héroïne parce que tu rigoles pas pendant ce qui se passe à côté de toi. Ça. Je suis désolée, effectivement, on a la radio, vous voyez pas ce qui s'y passe, mais c'est juste n'importe quoi.
Voilà, et donc j'ai un peu de mal à finir mes phrases, mais je ne rigole pas. Et donc là, il y a David à ma gauche qui me souffle des choses, je comprends pas. Et puis il y a Sylvain à droite avec son appareil photo qui fait des prises de vue en contre-plongée. Voilà. Oui, donc on va faire gagner des places pour Vincent n'a pas d'écailles.
Ah.
Voilà, donc à surveiller, ça sera bien.
David est le trésorier, vous l'aurez compris.
J'ai le droit de jouer, moi.
Donc, surveillez, vous voyez, il y a plein de concours.
C'est toi, Kemcub.
Putain, je le savais.
Non, mais c'est vrai que Charlotte a donné envie, là, quand même. Hein.
Ouais, carrément. Ah, par contre, je reviens juste sur ta phrase, c'est le premier film de super-héros français. Sans déconner, il n'y a pas de film de super-héros en France.
C'est vendu comme ça. Et
Depuis tout à l'heure.
Alors là, je lance un méga concours. Est-ce qu'il y a un film de super-héros français, quoi?
Kemcub, c'est pour toi.
Le défi.
Si tu réponds juste à la question. Tu gagnes une place pour aller voir Vincent n'a pas d'écailles.
À part la série HeroCorp, effectivement, je vois pas.
Il y a une place illimitée pour tous les événements.
Putain, c'est fou.
Ah, tu gagnes des places illimitées pour tous les événements.
Une place.
Non, c'est peut-être le cas. Enfin,
non, mais c'est justement, je trouve pas d'exemple.
Disons que je pense pas que ce soit l'intérêt principal. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez, naturaliste ou réaliste.
J'imagine
c'est pas du super-héros, quoi. Faut pas aller le voir dans cet esprit-là. Ça va être plus film indé, art et essai, j'ai l'impression. Voilà, donc on a hâte de découvrir ça.
Carrément.
Ça maintenant, on peut passer aux sorties DVD. Alors, alors Aurélien, très
fini. Moi, j'ai encore une sortie.
Excuse-moi.
Non, mais c'est pas grave. Je suis fini, il n'y a pas de souci.
Alors, Thomas, vas-y.
Donc, hier soir, j'ai vu Birdman
d'Alejandro González Iñárritu.
Wow. Ça sort le 25. Donc
ah,
c'est
excuse-moi.
Non, mais c'est pas grave, non, mais parle-en, parce qu'on l'attend tous avec impatience.
J'ai cru que c'était le 18. Pardon, auditeur.
C'est le 25, je crois.
Ok, bon, ben, j'en parle. Donc, c'est un film qui était plutôt attendu avec Michael Keaton, Edward Norton, Emma Stone et Naomi Watts. C'est Zach.
Tu as oublié un acteur.
Divoire, Valentin, il est pour toi.
Tu as oublié Zach Gafliflaflanakis.
L'américain d'origine grecque.
Le mec de Very Bad Trip.
Donc, ça raconte l'histoire de Regan Thompson, donc, qui est un acteur déchu qui jouait donc, dans le film un super-héros masqué qui n'a pas fait grand-chose depuis et qui décide de donner une nouvelle route à sa carrière en prenant en charge, donc en finançant, et en prenant le rôle principal, en se prenant des risques pour faire un rôle dramatique à Broadway. Donc, en gros, c'est l'histoire d'un acteur has-been qui voudrait que les gens le voient comme un artiste. C'est pas forcément gagné. Donc, on suit donc ses rêves, ses angoisses dans son nouveau projet et tous les problèmes qu'il peut avoir, ses problèmes à lui personnels et tous les problèmes des gens qui lui tournent autour, comme sa maîtresse, son ex-femme, sa fille qui sort de désintox et compagnie. Donc le premier truc qui marque, c'est que c'est la forme. C'est un long plan séquence. Ah oui. La première coupe franche, elle est environ à 1h40 de film.
Non.
Ah ouais.
C'est incroyable. Vraiment incroyable. Quand on est devant, c'en est presque... C'en est presque assez dur à regarder. C'en est presque fatigant parce que tu sais pas quand cligner des yeux. Donc t'arrives au bout, t'es un peu soufflé.
Oui, quand même.
Mais c'est la prouesse, c'est incroyable. On voit certaines coupes.
Oui, je veux dire, c'est pas un vrai plan séquence.
C'est pas un vrai plan séquence. Il est forcément monté.
Mais qui a la forme d'un plan séquence.
Il a la forme d'un plan séquence. Il arrive à faire dans son plan séquence, à changer de passer du nuit au jour, avoir des ellipses et compagnie. En soi, c'est assez incroyable, vraiment incroyable. Donc on le suit tout le temps. Les acteurs sont incroyables, surtout Michael Keaton. On le voit à l'écran non-stop. Il est absolument génial. Et on le suit se trimballer. Donc c'est quasiment dans un endroit unique, donc dans un théâtre à Broadway. On le suit. Alors même les plans où il peut se trimballer de couloir en couloir ou prendre des portes dérobées, on ne s'ennuie même pas car la caméra arrive toujours à faire des plans en marchant sur plein de métiers différents du théâtre. On voit vraiment toutes les coulisses. C'est vraiment malin. Et l'utilisation de la musique est aussi une musique particulière que je vous laisserai découvrir pour le coup, qui fait qu'on... Voilà, même quand le plan... Ben, quand ce qui se passe à l'image peut être ennuyeux, la musique nous donne un peu le peps. Enfin, personnellement, moi, si, quand je marche dans un couloir, c'est la musique que j'aimerais avoir dans la tête. Ça donne envie de danser un peu. Donc,
comme quand t'es au guest, putain, j'ai l'impression de voir mes soirées au guest.
Au
Black Pearl, en vrai, d'accord. Surtout au Black Pearl.
Vu le nombre de fois où le guest est mentionné, moi je crois qu'il faut vraiment qu'on en fasse des partenaires.
Mais on n'a pas parlé du Black Pearl.
J'ai un pote qui connaît le patron, il y a peut-être moyen.
Ah ouais, mais j'y crois. C'est un objectif super.
Attends, est-ce que si tu connais le patron, est-ce qu'il y a moyen qu'il ait des consos gratuites pour moi? Parce qu'à force de dépenser de l'argent là-bas, j'en peux plus.
Valentin, laisse-le finir sa chronique de Birdman.
Tu peux pas t'imaginer, c'était déjà dur à écrire, laisse-moi.
Enfin.
Non mais c'est dur pour lui.
Ouais, vous comprenez pas là.
Je suis vraiment désolé.
Non, c'est vrai. Donc ensuite, on a du mal à. C'est pas difficile de faire le parallèle entre la propre carrière de Michael Keaton et son personnage dans le film, évidemment, car comme Michael Keaton, le personnage a été un super-héros. Sa carrière après a un peu descendu, donc c'est sûr, il a joué pour Barbette Schroeder, il a joué pour Tarantino, ce genre de gens, mais bon, c'est vrai qu'à part les cinéphiles, j'imagine que pas grand monde s'en souvient.
Il est dans quel Tarantino, Keaton?
Dans Jackie Brown.
Il fait le flic dans Jackie Brown, il est bon.
C'est beaucoup de second rôle depuis quelques années, c'est vrai.
Beaucoup de second rôle, à chaque fois il est très bien, mais comme dit, finalement,
oui,
les gens ne s'en souviennent pas forcément, comme dit, si t'es pas intéressé à la chose... Et en même temps de ça, on le suit dans des délires schizophréniques. Et c'est la réalisation est faite de telle manière qu'il arrive à... Il voit des choses et d'un coup, il revient à la réalité.
Ah, on me rappelle un film.
Sans...
Mais sans coupe, on reste sur un plan séquence, ça ne choque pas. C'est comme presque, tu peux, c'est sans split screen, ça coule tout seul. Tu vois deux scènes dans la scène, c'est assez impressionnant. Enfin, moi, ça m'a un peu scotché. Et le seul truc, finalement, si je devais donner un point noir, c'est dommage que tous les acteurs, que ça soit Edward Norton ou lui, n'aient pas leur propre nom, parce que ça les reflète un petit peu.
Ça aurait encore plus brouillé les
pistes, et surtout
les frontières, les limites.
Il s'amuse à... par un moment, c'est sans spoil, c'est au début, mais ils recherchent un acteur, ils vont citer Ryan Gosling, et ils vont en citer d'autres, donc quelque part on est quand même vachement ancré dans le réel, et quelque part si ça avait été Michael Keaton qui aurait pris son nom, ça aurait été vraiment génial.
Ça s'est déjà vu, hein, Spike Jonze dans la peau de John Malkovich, il avait joué là-dessus, et par exemple, ça marchait bien. Hein,
ouais. Adaptation aussi.
Donc c'est un petit bémol, mais vraiment léger, faut absolument... Bah, ça et le fait qu'au bout d'une heure quarante, on a les yeux qui pleurent tellement, faut qu'il y ait, quoi. Ouais. Mais voilà, faut le voir, c'est une sacrée prouesse, et d'acteur, et de réalisation, c'est beau, ça... Okay. Allez-y.
Ouais. Et tu l'as sûrement dit, mais Inaritu avait largement fait ses preuves avant. On en avait parlé la semaine dernière. Quoi. C'est 21 grammes.
21 grammes, Babel.
Un bon chien, surtout.
C'est des claques à chaque fois.
Beautiful.
C'est la première fois, il me semble, qu'il n'est pas dans un film choral.
D'accord.
Il suit vraiment une seule et unique personne et ce qui tourne autour.
Quoi. Et tu sais, c'est un scénario original.
Aucune idée. J'ai pas fait mes devoirs. Je sais pas.
Ouais, il est nominé aux Oscars et je sais plus. Je sais pas si c'est une adaptation ou originale. Il faudra qu'on regarde ça, mais oui, en tout cas, ça conforte l'idée qu'on avait que c'était un grand film de 2015, quoi.
Un grand film de 2015.
Super. Et alors on a plein de DVD à mentionner, donc on va le faire de manière assez synthétique. Propose à alors ta sortie, c'est quelle date, le 9 ou le 16, tu sais?
Aucune des deux, je crois que c'est le 11 ou un.
Le 11, ah oui, bon, écoute, vas-y, parce que.
Non, je vais faire vraiment très vite. Je voulais parler de Balade entre les tombes, mais j'ai pas forcément besoin.
Oui.
Je voulais juste parler du Labyrinthe.
Ah oui, voilà.
The Maze Runner, en version originale. Donc voilà, film. Alors, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas si c'est un nom, ce genre. C'est les adaptations actuelles des romans pour adolescents. Donc, ils sont Hunger Games, Divergente, The Giver, etc. Je sais pas s'il y a une espèce d'appellation, mais en tout cas c'est un truc qui marche très bien en ce moment. Il fait partie un peu de cette catégorie, oui. C'est-à-dire on adapte au cinéma des romans pour adolescents presque même. Donc voilà. Donc c'est adapté d'une trilogie qui s'appelle L'Épreuve, mais qu'on a rebaptisé le Labyrinthe. Donc voilà. Moi, quand j'ai vu l'affiche, tout à l'heure tu parlais des affiches, je m'attendais à un film d'horreur. Parce que là, le Labyrinthe, tu m'attendais à un truc un peu horrifique. Pas du tout. C'est plus un espèce de film d'initiation, comme peuvent l'être Hunger Games, etc. Putain, vous.
Ils sont dissipés autour. Mais tu vois ce que ça fait.
Les vieux du Muppet Show sont. C'est ABC's of Death, c'est ça que vous regardez.
On va les.
C'est ça.
Hein. Ils vont être interdits de studio, quoi. Bon, ils amènent les bières, donc.
Donc voilà, que dire. Donc c'est un film qui clairement est destiné au public adolescent, donc dans la droite lignée d'Hunger Games. Donc voilà, ça intéressera surtout ce public-là. Moi je l'ai découvert, c'était, on va dire, plutôt sympathique. Ça résonne un peu comme un épisode de Lost. C'est un peu le même principe, un peu de mystère comme ça, un personnage central qui est catapulté dans un monde qu'il connaît pas, amnésique, etc. Avec quelques acteurs de la jeune génération. Juste pour anecdote pour toi, Charlotte, dans la version québécoise du film, c'est Xavier Dolan qui fait la voix du héros.
Je vous l'avais dit. Voilà. Et dans Twilight, il faisait le loup-garou, là. Comment il s'appelle?
Ah ouh,
faites pas semblant de pas connaître.
Jacob.
D'accord.
Jacob.
Team Jacob. C'était Xavier.
Hashtag Team Jacob.
C'est ça. Merci de me dire ça. Et il continue à faire des.
Exactement, donc il fait la voix du héros. L'héroïne, elle est interprétée par Kaya Scodelaria, que les gens connaissent surtout dans la série Skins. C'était la petite sœur du héros de la série Skins, qui va bientôt jouer dans Pirates des Caraïbes. Elle vient de signer pour le cinquième opus. Et surtout, on a le méchant du film, qui est interprété par Will Poulter. Alors ça dit pas grand chose comme ça, mais c'était Kenny dans Les Mineurs. Dans We Are the Millers, c'est l'enfant. Enfin, c'est l'adolescent qui s'en prend plein la gueule pendant tout le film.
Ah,
qui
oui.
a une gueule pas possible. Et voilà, c'est un des films les plus drôles de ces dernières années. Donc là, ça lui allait bien aussi de pour prendre un peu sa revanche sur toutes les tortures qu'on a pu lui faire subir dans Les Mineurs. J'ai plus de son, Merci. Donc voilà, après, le film est intéressant, mais comme...
Désolé, Étienne.
Les...
Ah, les gars de Gravelotte. Hein.
Comme,
c'est la faute de Valentin.
Mais je suis pas de Gravelotte.
Ça va être dur d'enchaîner derrière ça. Donc voilà, le seul reproche qu'on peut faire au film, c'est que comme c'est adapté d'une trilogie, ils étaient évidemment obligés de nous pondre un cliffhanger à la mort mal 2 pour lancer le 2. Donc voilà, et tout le film s'écroule, exactement comme dans Abana
tout à l'heure. Dans Jupiter Ascending.
Ou dans Jupiter Ascending. Voilà, le film est intéressant dans le postulat de départ, c'est-à-dire cette histoire de labyrinthe, les épreuves qu'ils ont à faire. Et à partir du moment où ils partent vers le 2, on sait, ça va être exactement comme Hunger Games, quoi. C'est le même principe. On part d'un truc, voilà, des adolescents qui sont censés survivre entre eux, se débrouiller pour arriver dans la vie, une espèce de fable à la mort mal 2, qui après part sur un truc beaucoup plus grand, sur la révolution, sur. Enfin voilà, donc ça va sûrement partir dans un grand n'importe quoi. Mais bon, à voir quand même, comme j'avais dit la semaine dernière, à voir en dimanche après-midi.
Ça sera une grosse sortie DVD.
En buvant des bières et en mangeant des chips.
C'est ça. Et un autre film assez majeur au niveau des sorties, c'est Gone Girl.
Absolument.
Là, je crois qu'on est beaucoup à l'avoir vu, donc ça va pouvoir... On a un tout petit peu de temps pour un peu donner chacun notre avis. Je sais qu'Aurélien m'a dit, moi j'ai pas accroché plus que
non,
ça. J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont quand même trouvé que c'était un bon film. Il avait eu de bonnes critiques. Alors Margot, vas-y, prends peut-être la main.
Écoute, pour moi c'est assez dingue un film aussi réussi avec d'aussi gros points noirs.
Ben Affleck.
Non, pour le coup non.
Là ça va bien. Mais...
Franchement, pour le coup, Ben Affleck n'est vraiment pas un point noir. Moi j'ai vraiment adoré Gone Girl, que j'ai trouvé extrêmement maîtrisé, et puis on pourrait je pense qu'on pourrait avoir de nouveau un peu la discussion sur Goodnight Mommy, dans le sens où moi avant de le voir, il m'a été vendu comme un film à twist, alors qu'en fait absolument pas, c'est vraiment pas un film à twist. Le twist entre guillemets n'intervient que vous me déconcentrez,
c'est pas le
horrible.
Twist à Saint-Tropez
le twist entre guillemets n'intervient finalement qu'à la moitié du film, et c'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas à ça qu'il
puis
faut
s'attendre. Puis il est moisi en plus, quoi.
Non, il est pas moisi pour
putain,
moi.
Sans déconner.
Ah, moi je le trouve pas moisi non plus.
Mais non, il est.
Toi
évident.
T'es le mec aigri autour de la table.
Mais tu sais que
on voit le maillon faible ce soir.
Je serais plus vieux que ça serait pas étonnant.
Mais je fais Aurélien, tu signes pas pour la troisième émission, c'est fini. On met un Kemcup à ta place.
Un twist évident ne veut pas dire qu'il est moisi, c'est-à-dire que c'était obligé, il ne pouvait pas y avoir d'autre chose, mais pour moi c'est pas moisi et c'est juste exactement ce qu'il fallait. Voilà. Après, vraiment, purement personnellement, j'en ai un peu marre de voir des films avec des meufs qui font semblant de se faire violer et ça leur rapporte de l'argent. Voilà, ça
c'est
m'énerve.
Très très bien que toutes les meufs font semblant de se faire violer.
Non, absolument
c'est incroyable
pas.
Qu'il n'y en ait pas plus d'ailleurs.
Absolument pas.
Non mais Étienne, qu'est-ce que tu fais avec le buzzer là ? Suis un petit peu. Non mais c'est une chose.
Non mais attends, arrête, on est en train de.
Voilà,
de on va faire
merci.
Du buzz à ton émission et pas du buzz de Étienne, du vrai buzz. Quoi.
Je pense qu'Étienne en a trop marre en fait.
Oui, mais.
Il a décroché depuis une heure, Étienne, ouais.
Voilà, pour moi, Gone Girl, extrêmement réussi malgré de très très gros points noirs, très maîtrisé, très ironique, surtout dans ces 20-30 dernières minutes. Voilà, très très drôle aussi.
Drôle ?
Ah ouais, moi j'ai trouvé ça extrêmement drôle, Gone Girl.
Cynique
alors ?
Comme ça.
Cynique, ouais, très grinçant en fait.
Très grinçant, bon ça oui, c'est vrai.
Ouais, le seul truc à grincer, moi, c'est mon siège pendant la séance. Quoi.
Alors, Aurélien,
emmerdé,
de manière aussi, synthétique.
Mais comment dire
le mec polémique.
Non, c'est pas le mec polémique. Ah bah, après,
t'as un peu le Zemmour de la bande. En fait.
Exactement.
Non.
Exactement. Non mais c'est vrai en plus.
Ouais, t'aimes personne.
Ils sont d'accord.
En plus,
non.
En plus, t'as pas totalement tort, Valentin, dans le sens où là, c'est pas la société française qui est en plein déclin, c'est la société américaine. Les deux films parlent de ça, le déclin de la société américaine dans It Follows, c'est ça. Dans Gone Girl aussi, mais que dire.
Ça m'a ennuyeux.
J'ai trouvé ça extrêmement ennuyeux. L'actrice, alors en plus, ça, je crois qu'elle est nommée aux Oscars, elle est insupportable.
Enfin,
en tout cas, son personnage est insupportable.
C'est Rosamund Pike, c'est une James Bond girl et elle est magnifique.
Ah, James Bond,
elle est géniale.
C'est tout. C'est juste parce qu'elle a joué dans James Bond que t'aimes ça.
Elle est
elle est très très bien. Non, mais alors là, pour le coup, elle est vraiment un contre-emploi parce qu'elle joue toujours des nanas un peu amoureuses du héros, enfin un peu insipides quoi, dans James Bond, dans Jack Reacher avec Tom Cruise, dans plein de trucs. Et là, je trouvais que justement, elle était très très bien parce que.
Donc, on a
c'est la première fois qu'elle a un rôle principal et qu'elle est.
On a Sylvain qui dit con et. Valentin qui dit insipide, la traduction.
Si je puis me permettre, ne pas tomber amoureux ou amoureuse d'elle dès le premier plan, c'est impossible. Moi, je la trouve vraiment extraordinaire.
Charismatique.
Ah ouais, ouais, moi, je suis tombée amoureuse d'elle vraiment dès le premier plan. C'est voilà. Non, vraiment, c'était pour moi, elle a tout à fait sa place dans ce film et elle réussit extrêmement bien le challenge.
D'accord. Ah, pour moi, je sais pas. Je sais pas quoi rajouter, voilà.
Mais c'était bien d'avoir deux avis différents.
Le pire dans tout ça, c'est que c'est David Fincher qui l'a réalisé, et ça c'est horrible, quoi. Connaissant le talent de ce mec-là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
Là, tu peux enlever le micro.
Non, mais voilà, c'est tout.
D'accord. Bah écoutez, c'était sympa d'avoir un avis un petit peu mitigé sur ce film qui finalement avait quand même reçu, je pense, globalement un bon accueil. J'ai pas lu énormément de choses négatives, donc c'était intéressant. Alors, avant qu'on passe le deuxième extrait de It Follows, de la BO de It Follows, je voulais juste qu'on parle rapidement d'Annabelle, parce qu'il y a vu
un
fait d'actualité. Non, moi, je ne l'ai pas vu.
Heureusement que David Fischer l'a pas fait, ça aurait été une dove. Hein.
J'en suis sûr que Eric Zemmour adore ce film.
Non, donc si tu avais fait ça, Aurélien, tu
Annabelle, ce merveilleux film de David Fincher.
Je plaisante, je ne l'ai pas vu.
Donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc Annabelle, c'est un film d'horreur qui était c'est un spin-off.
C'est un spin-off de
Conjuring.
C'était bien, Conjuring.
Il est très très bien.
Conjuring, c'était très bien.
Aimé, c'était le réalisateur de Saw, c'est
de
ça.
De James Wan,
qui a fait Insidious, Insidious 2.
Non mais Conjuring était pas très bien. Enfin franchement non.
Ah si Conjuring.
Bon bref, peu importe, c'est pas le sujet du film. Conjuring était bien, on s'en fout.
C'est un bon film.
Je ne trouve pas non plus.
C'est un très bon.
Si on part de ce présupposé là, ça va pas aller.
Très dissipé là.
Peu importe, c'était
un film de série.
C'était un spin-off de Conjuring. Qui était réalisé par quelqu'un qui sait très très bien manier la caméra.
Exactement.
Et qui est là,
un bon
tombe entre les mains d'un mec qui sait rien faire. C'est vrai. Je suis désolé. Oui, donc alors Annabelle, c'est réalisé par John Leonetti, qui est le directeur photo de Insidious et de Conjuring, et qui passe donc en tant que réalisateur. Alors John Leonetti, il était directeur de la photo sur des centaines de films et des tas de trucs connus.
Adios Monde.
Mais pas de James Bond, mais par contre il a réalisé un film qui est magnifique qui s'appelle L'effet papillon 2. Et donc quand on sait que du coup Annabelle est réalisée par le réalisateur de cette grosse daube, on a vraiment pas envie de le regarder. Et on a envie de regarder le film en disant au mec, tu n'es pas James Wan, arrête de faire des films, stop quoi. Donc en plus c'est le pire, c'est que c'est un spin-off qui respecte même pas le premier film. Enfin, je veux dire, il y a aucun respect de l'œuvre dont on s'est tiré. Je veux dire, c'est très très mauvais. C'est pas du tout respecté. C'est vraiment pas bien, quoi. C'est vraiment pas à voir. Mais bon, si vous voulez l'acheter en DVD, ça sort le 11 février. Ça sort chez Warner en Blu-ray
et en
DVD.
Et en fait, il y avait eu tout un buzz parce que
une pseudo polémique.
Il y avait du bordel dans les salles et ça.
Et le film a été retiré de plein de salles, énormément de salles.
Parce que il y a des ados qui s'amusaient à.
Ils faisaient ça pour s'occuper parce que c'est tellement ennuyeux, sérieusement.
Bah oui. Non, vraiment. Enfin, il fallait vraiment ça pour faire parler du film, quoi. Parce D'accord. que sinon, ça sert vraiment.
Ouais. Moi, j'espère qu'ils vont casser leur canapé chez eux quand ils vont regarder le DVD. On va...
Et donc, moi, avant le deuxième morceau, je parle juste de Boyhood, mais en fait, ça va être très bref parce que j'en ai parlé à la précédente émission. Boyhood, c'est Golden Globe du meilleur film. Le fameux film qui a été tourné sur une période de 12 ans, le réalisateur Richard Linklater, qui est un Texan, a tenu le challenge de prendre des acteurs et de les filmer sur une petite période pendant 12 ans pour voir un jeune homme grandir. Le DVD contient des interviews du réalisateur qui sont très intéressantes parce que comme c'est un projet tellement atypique, c'est bien de l'entendre parler de sa démarche. La question c'est, est-ce que c'est un exercice de style et il n'y a que la forme qui compte ? On voit bien que c'est pas le cas. Il a dit, je voulais parler du fait de grandir d'une manière particulière. C'est quelque chose qu'il a fait depuis le début de sa filmo. Si je vous cite des titres de ses premiers films, ça vous parlera sans doute pas parce qu'il n'est pas très connu en France. Il y a Slacker, il y a Dazed and Confused, il y a Suburbia. Et il y a la trilogie des Before qui est un peu plus connue, avec Ethano qui est puis l'actrice française
Julie Delpy.
Voilà. Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight qui est sorti il y a
2 ans. Dazed Confused, c'est quand même devenu un film super culte.
Mais en France aussi, un petit peu.
En France moins, mais aux États-Unis, c'est un des films
très dur de trouver des copies de Dazed and Confused. Moi, j'ai trouvé une copie ricaine avec un sous-titrage canadien avec des tabernacles dedans.
Le titre français est Kitsch, je crois que c'est
Génération Rebelle.
Génération Rebelle.
À ne pas confondre avec avec l'esprit rebelle qui est sorti au même moment et qui pour le coup
donc c'est une thématique qui court dans sa filmographie, donc si moi je le connaissais avant et je trouve que c'est tout à fait logique et c'est vrai que bon ben tant mieux si ça a permis à plein de nouvelles personnes de le découvrir, mais ça serait dommage de se limiter à l'exploit d'avoir tourné sur une telle période parce que derrière il y a une réflexion, il y a une intention et moi j'aime beaucoup ce film et la plupart de ces films sont vraiment sans grande prétention. Et je trouve ça bien aussi d'avoir des films un peu dépouillés comme ça, remplis de simplicité. Donc le film sort le 16 février. Et comme je vous l'ai dit, il y a une interview, les coulisses, et puis encore un autre bonus. Et ça permet bien de saisir la démarche et d'apprécier d'autant plus le travail de Richard Linklater. Voilà, alors une petite pause avant qu'on revienne avec l'actu de la région, de l'asso, et puis l'actu nationale avec la sélection des Césars. Donc on revient sur It Follows avec la musique de Disaster Peace et puis un morceau qui s'appelle Pool. Et en fait, je soupçonne de toute façon qu'il y ait une piscine dans le film, puisque sur les
images promo,
c'est,
qui
amène des plans extraordinaires.
Une topographie, sans
encore une fois.
Donc,
c'est pas la meilleure idée du film, mais ça fait des plans géniaux.
C'est cheveux, quoi.
Non, oui, d'accord.
Voilà, alors nous sommes presque au complet là devant la table. Le morceau était extrêmement court. Mais c'est bien parce que là, il nous reste pas beaucoup de temps à la fin de l'émission. On a encore plusieurs choses à aborder. Donc, on aime bien parler un peu de l'actu de la région. Et là, en fait, j'ai déjà mentionné le festival, le Luxembourg City Film Festival, qui a dévoilé sa programmation la semaine dernière. Et donc, les points majeurs. En ouverture, ça sera Big Eyes de Tim Burton.
D'accord.
Dont la sortie a été reportée. Le film devait sortir, je crois, en janvier ou en décembre. Alors, Big Eyes, c'est un biopic. Donc, le premier de Burton depuis Ed Wood. Et ça concerne une illustratrice qui dessine des enfants avec des yeux globuleux, qui rappelle en fait le travail de Tim Burton, et il admire beaucoup cette femme. Et en fait, elle travaillait avec son mari qui visiblement...
Et c'est lui en fait qui tire la couverture vers lui dans... C'est
exactement, ça, voilà. Et donc les interprètes sont des acteurs excellents, c'est-à-dire Christophe Waltz. Le nom m'échappe, mais c'est
l'actrice... Ça m'échappe aussi.
Qui joue dans...
Là, c'est compliqué.
Ouais.
Regardez la bande-annonce sur The Bloggers Cinéma Club.
Oui, exactement. Ouais, c'est une actrice qui a déjà été récompensée, enfin, en tout cas nominée. Amy Adams, voilà. Vous voyez.
Okay.
Il me faut juste 30 secondes, voilà. Ensuite, une autre bande-annonce que j'ai mise sur bloggerscinémaclub.com, c'est While We're Young. C'est le nouveau Noah Baumbach qui s'est fait connaître avec Frances A. Dans lequel on voit Greta Gerwig errer dans les rues new-yorkaises, faire un peu sa folle. C'est un film assez jazz comme ça, en noir et blanc. Et donc on a hâte de voir la suite. Vous découvrirez le synopsis et puis la tonalité du film.
Et surtout les acteurs, c'est une espèce de rencontre de deux générations d'acteurs comiques
Ben Stiller. Qui est en couple avec Naomi Watts film, il joue un couple de cinéastes, et puis...
Comment il s'appelle
Adam, je ne sais plus quoi.
Futur héros de Star Wars.
Qui est dans Star Wars, voilà. et qui est un acteur
Adam Driver, un truc comme ça,
voilà, qui a un physique assez inhabituel,
assez particulier, ouais. Mm-hmm.
Et puis Amanda Seyfried,
et c'est ça,
voilà, et donc c'est un peu le choc des générations. On a hâte de voir ça. Qu'est-ce que j'ai noté? Alors, oui, il y a quelque chose d'un peu amusant dans le jury. Il y a Stéphane Bern, soit.
Pourquoi? Bah, oh, parce qu'il est luxembourgeois, dis donc.
C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de films avec des rois et des reines.
Enfin, c'est ça. Et voilà, dans la sélection.
C'est parce qu'il est très ami avec le grand-duc de Luxembourg.
Mais
non.
Ouais.
Non, mais si on peut le faire un pont avec Gérard May, je me suis autant posé de questions sur la présence de Jérôme Niel dans le jury.
Tous les ans, il y a quelqu'un d'improbable. Il y avait Johnny Hallyday une année quand même. Hein.
Je pense qu'il est plus légitime que Stéphane Bern.
Mais là, Stéphane Bern est en plus.
Bruno Volkovitch, quoi.
À Gérard May, il y a déjà eu Mimi Mati ou les gens d'Hélène et les garçons. Enfin, en soi, là, cette année, ça allait, quoi.
Ah, je suis désolé, je suis obligé.
Il y avait une année où il y avait Johnny Hallyday et Christopher Lee la même année, tu vois, c'est te dire le.
Ah, je suis désolé, je suis obligé de rebondir sur Mimi Mati, mais au Black Pearl, il y avait quand même le soir où je suis allé.
Non, mais on s'en fout,
mais non, mais il y avait trois géants, quoi. J'ai dire, c'était comme dans Twin Peaks, quoi. Il y avait trois mecs qui faisaient plus de 2m20, c'était juste un grand n'importe quoi. Voilà, c'était
sur les étoiles.
On n'a pas le temps de faire des digressions, là. Oui. Mais non. Je crois que tu ne seras pas là à la prochaine émission.
Bon, allez. Vas-y, Charlotte.
Donc, je continue. Hors compétition, il y a A Girl Walks Home Alone at Night. Vous avez une review sur le site. Il est en fait déjà sorti en salle en France, mais il sera projeté. C'est un film complètement improbable. Un espèce de western vampire iranien qui est vraiment très esthétique, très beau. Moi, j'ai bien aimé. C'est une jeune réalisatrice, donc ça vaut le coup d'être vu. Et puis Goodnight Mommy, je vous l'ai dit, que vous aurez la possibilité de voir dans le cadre de ce festival.
Il y a Good Kill de Andrew Niccol, le nouveau Andrew Niccol.
Voilà. Et le festival aura lieu du 26 février au 8 mars, donc principalement à la Cinémathèque du Luxembourg. Voilà. Au niveau de l'actu de l'asso, j'ai déjà rappelé qu'on a notre soirée le 14 février, donc venez nombreux. Et puis, il y a les films suédois. Est-ce que, Aurélien, tu peux nous rappeler la date, le lieu?
Du coup, le dépôt des films est fini, parce que c'était jusqu'au 7 février. Ah, ils laisseront peut-être un petit peu de délai à voir, on peut toujours tenter. Et la diffusion des films, c'est le 20 février.
D'accord.
Au Caméo Ariel de Metz.
Voilà,
donc voilà, n'hésitez pas à venir, hein, c'est ouvert au public. Et le public vote pour son film préféré cette année. Voilà, donc les gens sont récompensés par le public, donc c'est plutôt une bonne chose.
Chouette, voilà. Et puis là, on a appris aujourd'hui qu'on allait organiser un nouveau blind test début mars. Donc la dernière fois, on a eu énormément de monde. Il y avait trop de monde pour faire les équipes, voilà. Donc c'est vraiment chouette. Et en plus, l'animateur m'a dit qu'il inclurait des thèmes de séries TV. Alors ça, c'est toujours très très chouette. Voilà. Voilà. Passons maintenant.
Ken Cub révise tes classiques, et bien.
C'est où?
C'est au Lancieux. Au café de Lancieux, le QG, Thomas.
Le QG.
Okay.
À côté de la face
cachée. À côté de la face cachée.
Voilà.
Ce placement produit.
Mais toujours, vous savez que les vinyles qui tournent, tout ça.
Il est là avec nous, tu sais.
Mais oui. Dans l'esprit, la musique.
Café, d'ailleurs,
alors, actu national, je sais que c'est peut-être pas aussi palpitant que les Oscars. Enfin, moi, je trouve toujours.
Non, c'est pas aussi palpitant.
Il y a pas de doute.
Je trouve toujours que c'est une cérémonie atrocement maladroite. Donc les Césars. Il y a eu voilà l'annonce des nominations. Rapidement, parmi les nominés des interprètes, les actrices, il y a Juliette Binoche et puis Kristen Stewart de Sils Maria, dont je vous parlais la semaine dernière. Donc ça serait rigolo de voir Kristen Stewart récompensée en France. Et en plus, elle avait fait une performance sympa dans le film. Hein. Elle avait complètement assuré. Sinon, parmi les autres interprètes, il y a Marion Cotillard qui a été dans le film... sélectionné à Cannes des Dardennes.
Des frères Dardennes,
voilà. Il y a Adèle Haenel dans Les Combattants. C'est un film français, voilà, ouais. C'était une belle surprise.
J'espère.
Et chez les hommes, c'est amusant parce qu'il y a les deux interprètes de Yves Saint-Laurent. Je vous en parlais l'autre fois. Pierre Niney, Gaspard Ulliel. Donc on verra ce que ça donne. Meilleur espoir féminin, il y a la jeune de Bande de filles, donc on espère aussi qu'elle sera récompensée pour son travail. D'ailleurs, Céline Sciamma est nominée pour meilleure réalisatrice, le film est nominé pas mal de fois, Bande de filles, on espère qu'il repartira avec quelque chose. Et puis, Valentin pourrait nous faire écouter, pendant que je parle, un petit extrait de la BO.
Ouais, et puis Valentin, j'attends ta blague sur les Césars, j'avoue.
Oui, alors Valentin, voulez nous parler d'un des films nominés, on va un petit peu rapidement, mais parce qu'on n'a plus trop de temps, dans Meilleur film étranger. Donc il y a 12 Years a Slave, Boyhood, dont je vous parlais à l'instant, Deux jours, une nuit, parce que c'est belge, c'est pas français, Ida, Mommy, de Xavier Dolan, The Grand Budapest Hotel et Winter Sleep, qui était affreusement chiant, mais qui est la Palme d'Or, à Cannes, voilà. Donc, meilleur film étranger... Non, c'était dans quoi ? C'était pas...
C'était dans meilleur documentaire.
Pardon, meilleur documentaire.
C'est dans meilleur documentaire. Il y a Le sel de la terre qui sort en DVD, d'ailleurs, le 18 février, chez France Télévisions, qui est de Wim Wenders, le dernier film de Wim Wenders, qui est le réalisateur de Paris, Texas et Des ailes du désir.
Des ailes du désir.
Qui est un magnifique documentaire sur le travail de Sebastiano Salgado, qui est un photographe qui met en valeur la beauté de la nature. Alors, ça est autre chose que Yann Arthus Bertrand. Hein. Moi, ce qui me fait peur, en fait, un petit coup de gueule que je voulais juste passer sur les Césars.
Ah non, c'est pour moi, ça.
C'est que... Ah, pardon. Excuse-moi d'être le mec aigri cette fois-ci, mais... c'est que, malheureusement, le film est nominé dans la même catégorie qu'un autre documentaire qui s'appelle Caricaturiste, fantassin de la démocratie, et qui, à mon avis, à cause du sujet, va avoir le César. Et ça va forcément avoir...
C'est le film de Plantu, ça.
Le problème, c'est que, du coup, l'ensemble des Français l'ont vu soit sur Canal, soit sur France 2, soit sur Arte.
Voilà, c'est ça, le problème. À mon avis, ça va avoir le prix, justement, à cause du sujet, mais c'est ça qui me... Non, mais bien sûr, on verra. Et l'autre coup de gueule que je voulais passer, c'est que vraiment, la médaille d'or de l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma va aller à Luc Besson. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont m'écouter et qui vont dire,
il est
toujours en train de pester sur ce mec, mais enfin, quand même, faut pas déconner, quoi. Le gars qui a produit Tekken 3 va avoir une médaille pour le travail qu'il a rendu au cinéma français. Enfin, faut arrêter, quoi.
Tant qu'il continue les plans fesses sur Scarlett Johansson.
J'avoue.
Non, faut qu'il arrête de filmer des actrices connues. Faut qu'il arrête.
Pas Scarlett.
Faut qu'il arrête. Personne ne doit arrêter de filmer Scarlett Johansson. Je laisse la parole à Charlotte.
Oui, mais Luc Besson, si, quand même. Luc Besson doit mourir. Voilà. Oh, mais arrêtez, vous êtes aigris aussi, vous deux.
Il vient de lancer une intifada en direct.
D'ailleurs, parlant de Scarlett, elle s'est fait la même coupe que Miley Cyrus et ça lui va très bien.
Merci pour ce côté.
Moi, je vais partir faire le djihad contre Luc Besson et puis c'est
donc, Valentin nous a offert le coup de gueule de fin d'émission. Donc, je remercie tous les blogueurs qui étaient présents. Je rappelle Aurélien, Margot, Thomas et Valentin. On remercie Étienne à la technique au son. On ne remercie pas David et Sylvain qui ont été complètement dissipés pendant toute l'émission. On salue tous les blogueurs parce que vous savez qu'on est une assez grande équipe. Marine à Lyon, Mathieu à Paris, Sophie à Toulon, nos expats japonais du moment, Flo et Jenny, qui avaient fait un super travail de modération, qui seront là, bien sûr. Et puis,
Je vais pas faire les vinyles toutes les semaines non plus, hein.
Ça va.
Ah oui, bon, quand même. On remercie vous auditeurs et les suiveurs du blog Kemcub, bien sûr. Voilà, avant tout. Et puis également nos partenaires sans qui les soirées, les événements qu'on organise ne seraient pas possibles. Le café Lancieux, donc le QG, l'équipe du Caméo, l'équipe du Palace. Et puis, je voudrais aussi dire un grand merci à Olivier et Clément de Light Motion qui composent les musiques de tous nos teasers. La musique que vous avez pu entendre de notre générique, qui est une musique originale. Et puis également Benjamin, qui s'occupe de toute notre com visuelle, des animations. Vous en verrez passer une en ce moment sur la soirée de la Saint-Valentin. Donc, on remercie toute cette équipe parce que c'est ce qui fait la richesse de cette aventure. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine, avec le rappel des actus et puis dans deux semaines avec une nouvelle émission. Voilà, à très vite et on vous embrasse.
Merci Charlotte.
Merci.
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 C'était Radio Cinéma Club. À la semaine prochaine sur ZKM.